Europe Matin Weekend.
Et bonjour à tous, à deux minutes d'être 6h, j'espère que vous êtes en forme ce matin. Si vous êtes en train de vous réveiller tranquillement, ravi de vous retrouver pour un nouveau week-end d'information, de culture, d'évasion. Pour l'info, vous le savez, hein, Europe Matin Weekend, c'est un journal toutes les demi-heures et un invité actu à 7h10, c'est Jonathan Denis, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, qui sera avec moi ce matin en studio. En ce week-end des journées du patrimoine, Vanessa Zah nous emmène à Besançon, nous dégusterons des cette saison avec Olivier Pouls. Et puis nous parlerons du tout dernier film d'Emmanuel Mouret, Chronique d'une liaison passagère. Et nous entendrons Moby de retour avec Nicolas Sirkis d'Indochine. Mathieu Alterman est là également avec nous pour nous parler des remakes de films qui sont parfois bien meilleurs que les originaux. On voit tout ça tout au long de la matinée. On décline l'actualité. Soyez les bienvenus. On est très heureux de vous savoir avec nous. Merci de vous réveiller avec Europe 1. Il est 6h.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
L'heure de retrouver le premier journal de cette matinée avec Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
Bonjour Léna Aigmonier, bonjour à tous. Ça ne tourne plus très rond sur la planète football. La Fédération française aurait fermé les yeux face à des cas d'abus sexuels sur mineurs. Nouvelle révélation dérangeante pour le président de la FFF, Noël Le Graët, déjà dans le viseur du ministère des Sports.
À la une également, l'horreur à Izioum après avoir repris la ville russe. Les Ukrainiens disent avoir découvert des centaines de cadavres torturés.
Et dans ce contexte de guerre et de potentielle pénurie énergétique, le site internet EcoWatt attire de plus en plus de Français à la recherche d'astuces pour économiser l'électricité.
Et puis cette question, pourra-t-on se chauffer correctement cet hiver? Est-ce qu'il y aura assez de granulés à bois par exemple? Ce sera l'interview conso de ce matin dans la prochaine demi-heure avec Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Et justement, est-ce qu'il fait froid aujourd'hui Valérie? Une petite tendance.
Oh là là, bonjour à tous. Alors ce matin il fait frais, il va faire 9 à Paris, c'est vous dire. Non, gros coup de fraîcheur ce week-end sur l'ensemble du pays. Poursuite des températures en baisse même cet après-midi entre 14 à Belfort et 27 à Toulon. La Grande Bleue toujours privilégiée. Et c'est ensoleillé quasi partout tout de même.
Merci Valérie, météo complète à la fin du journal. Et Clotilde, vous le disiez, la Fédération française de foot est plus que jamais dans la tourmente.
La FFF aurait couvert des scandales sexuels pendant 40 ans. C'est ce que révèle le journaliste indépendant Romain Molina. Il a mené l'enquête pendant 2 ans. Et selon lui, Cyril de la Morinerie, la Fédération aurait donc tenté de cacher des abus sexuels sur des mineurs.
Oui, selon le journaliste, la Fédération française de football aurait tout fait pour enterrer les scandales sexuels au sein de l'institution. Depuis une quarantaine d'années, des cas d'agression sexuelle sur mineurs n'auraient dans la plupart des cas jamais été signalés aux autorités, affirme sur Europe 1 Romain Molina.
Dans tous les cas que j'ai révélés, que ce soit des abus sur mineurs, attouchements sur mineurs, violences sur mineurs, chantage sexuel et autres, qui sont donc des crimes punissables par la loi française, en aucun cas la Fédération a saisi l'autorité à une reprise seulement parce que les joueuses avaient menacé de faire grève. Sur les 10 autres cas, donc les 9 autres, ils n'ont jamais saisi quelqu'un.
Dans son enquête, le journaliste évoque en effet une entraîneur licenciée de la Fédération après de supposées relations sexuelles avec des joueuses mineures à Clairefontaine. Dans ce cas précis, Noël Le Graët a alerté par courrier le procureur de la République. Mais le journaliste affirme que cette personne a continué à travailler auprès d'enfants et que les responsables politiques n'ont pas été avertis. Fernand Duchossois, éphémère président de la Fédération, joint par Europe 1, assure qu'il n'a jamais eu connaissance à son époque de cas d'agression sexuelle.
J'ai jamais eu de retombée à ce niveau-là de la part de Clairefontaine, quoi. Moi ou d'autres. J'aurais couvert des trucs en étant au courant, puis en disant c'est une règle non écrite et compagnie. Mais j'y crois pas un instant.
En attendant, selon nos informations, à ce stade, aucune enquête judiciaire n'est ouverte.
Cyril de la Morinerie, le président de la FFF, qui a par ailleurs été convoqué hier par la ministre des Sports pour évoquer notamment l'enquête publiée par le magazine SoFoot évoquant l'envoi de textos à caractère sexuel à des employés de la Fédération de la part de Noël Le Graët. La ministre Amélie Oudéa-Castéra a décidé de lancer un audit en interne sur le pilotage de la Fédération française de football.
Dans le reste de l'actualité, en Ukraine, nouvelle découverte macabre près d'Izioum, une ville de l'Est reprise aux Russes la semaine dernière.
Environ 450 corps de civils enterrés dans une forêt. 99% d'entre eux présentent des signes de mort violente, d'après le gouverneur régional. Les précisions de Louise Douillet.
C'est en dessous d'innombrables croix en bois plantées dans un sol sablonneux que des centaines de corps ont été exhumés hier. Selon le gouverneur régional, plusieurs avaient les mains liées dans le dos. Une personne a même été enterrée avec une corde autour du cou, a-t-il déclaré sur Telegram. Oleg Sinegubov rapporte enfin que les 200 agents et experts mobilisés sur le terrain ont découvert des corps d'enfants au sein de cette fosse commune. Ce qui l'amène à qualifier ces actes d'actes de torture, au même titre que le président Zelensky.
Aujourd'hui, le monde doit voir ce que l'armée russe a laissé derrière elle. Une autre fosse commune de personnes massacrées. Nous ne savons pas encore exactement combien il y a de corps. L'exhumation vient à peine de commencer. Vous avez vu Boutcha, vous avez vu Mariupol, maintenant Izium. Combien de temps cela va-t-il encore durer ?
De son côté, le Haut Commissariat aux droits de l'homme pour l'ONU a indiqué vouloir envoyer une équipe à Izium pour déterminer les circonstances de la mort de ces personnes.
Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté les atrocités commises à Izium sous occupation russe. Sur Twitter, le président estime que les auteurs devront répondre de leurs actes.
La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie qui sont, on le sait, à l'origine des risques de pénurie de gaz et d'électricité en Europe.
Et pour les éviter, un seul mot d'ordre cet hiver, la sobriété énergétique. Le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE vient de mettre en place la plateforme numérique EcoWatt. Elle est accessible aux entreprises et aux particuliers. Alors concrètement, Barthélémy Philippe, à quoi ça sert et comment ça marche ?
En fait, c'est simple. Vous allez sur le site monecowatt.fr pour connaître le niveau d'électricité disponible dans le pays. Ça se présente comme la météo de l'électricité. Vous voyez apparaître une carte avec des prévisions à 4 jours et un code couleur. En vert, c'est que tout va bien. En rouge, attention, le réseau est sous tension et peut saturer à tout moment. Les précisions de Jean-Paul Roubin, directeur exécutif du réseau électrique.
Ça veut dire que la production française d'électricité qu'on prévoit pour le lendemain ne sera pas suffisante pour couvrir la consommation. Et ce déséquilibre, il faut absolument le réduire. Et pour ça, le système EcoWatt finalement invite et incite l'ensemble des Français à réduire leur consommation d'électricité. Et cette réduction permettra d'éviter qu'on soit contraint à l'ultime mesure qui serait d'organiser des coupures d'électricité sur le territoire.
Si vous êtes inscrit sur monecowatt.fr, vous devriez recevoir des alertes par mail ou SMS cet hiver. Lors d'un pic de consommation, vous pouvez par exemple éteindre votre four ou décaler votre machine à laver de quelques heures. Ce sont des gestes simples, mais ils vous permettent de réduire la facture. C'est important parce que le prix de l'électricité devrait augmenter de 15% début 2023.
EcoWatt qui compte déjà 100 000 inscrits, soit 30 000 de plus en 3 jours.
Allez, direction le Royaume-Uni où on a déjà sorti les bougies pour les funérailles d'Elisabeth II dans la file d'attente pour accéder au cercueil de la reine.
Et oui, jusqu'à 24 heures d'attente enregistrées hier. Les autorités ont d'ailleurs mis en garde contre les températures nocturnes froides. Même l'ancien footballeur David Beckham a dû faire la queue pour accéder au cercueil. Et hier soir, les 4 enfants de la reine ont veillé auprès du corps de leur mère. Chaque Britannique rend hommage à Elisabeth II à sa façon. À Stafford, par exemple, ils se réunissent au Cup à Chat, un café à thème 100% famille royale. Reportage de Nina Droff.
Quand on pousse la porte du Cup à Chat, impossible de ne pas être directement assailli par des centaines de photos de la reine, collées aux tables, accrochées au mur et même floquées sur la vaisselle. Selon Chris, le serveur, c'est plus de 900 objets à l'effigie de la famille royale qui sont éparpillés dans le café.
Des tasses, des plats, de la porcelaine, on a aussi des souvenirs, des photos, des magazines, tous les objets que vous pouvez imaginer, on les a. Peu importe où vous regardez, il y a forcément une photo de la reine.
Et depuis la mort de la souveraine, les clients sont chaque jour plus nombreux à venir prendre un thé ou un café dans cette atmosphère saturée en royauté.
C'est naturel pour les gens de venir ici, juste pour être entouré d'images de la reine. C'est assez réconfortant pour certains de passer du temps ici, à se souvenir d'elle et à célébrer sa vie. En plus, comme elle est beaucoup venue à Stafford, de nombreuses personnes ont de jolies histoires à raconter sur elle.
Une tasse de thé entre ses mains tremblantes, Maggie, une cliente, laisse son regard se perdre sur les photos de la reine.
Elle nous manque déjà. Il y a beaucoup de souvenirs ici. C'est une atmosphère très agréable pour nous dire au revoir.
Le café a même envoyé une invitation au nouveau roi, Charles, pour lui proposer de venir se recueillir ici, lui aussi. Stafford, Nina Droff, Europe 1.
Charles III qui a terminé son tour du Royaume-Uni au Pays de Galles hier, malgré quelques manifestations anti-monarchie.
Et à 6h08 sur Europe 1, on revient au football, mais cette fois-ci pour parler de résultats, Clotilde.
Et la déception d'Auxerre qui s'est inclinée 3-1 à domicile face à Lorient. 4e défaite consécutive qui rapproche le club bourguignon de la relégation. Invité exceptionnel d'Europe 1 Sport hier soir en direct du stade de l'Abbé Deschamps, Giroud a tout de même souligné le sursaut d'orgueil des Auxerrois en deuxième période. Une attitude qui devrait leur permettre de se maintenir en Ligue 1, d'après l'ancien entraîneur.
Auxerre a eu le mérite à 0-3, chez lui devant 15 000 spectateurs, de ne pas renoncer, de montrer qu'il avait du cœur, de la conscience professionnelle. S'inquiéter, oui, quand on est là, on ne sait pas combien on va être, 14e ou 12e. Bon, bien sûr qu'on peut être inquiet plus que Lorient, mais j'ai fait des années qui ont démarré comme ça et qui se sont terminées beaucoup mieux. Ils sont capables de le faire.
Et de son côté, Lorient monte provisoirement sur le podium au classement de la Ligue 1 avant les autres rencontres de cette 8e journée. Aujourd'hui, Montpellier reçoit Strasbourg et Toulouse se déplace à Lille.
Merci Clotilde, à tout à l'heure.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Première météo de la matinée, Valérie Darmon, c'est gris sur la façade est.
Eh oui, c'est gris sur la façade est, mais ce sera au soleil sur la façade ouest. C'est contrasté aujourd'hui, côté température aussi d'ailleurs.
Alors, il fait frais, hein, ça baisse.
Il fait super frais, ouais. Et demain, ce sera pire. Et elles vont remonter ces températures en fin de semaine prochaine. Alors, vous vous réveillez sous la pluie ce samedi matin entre les Ardennes et le massif jurassien. Il va même commencer à neiger. Au-delà de 1500 mètres, oui. C'est pas exceptionnel pour la saison. Dit comme ça, ça fait un peu
peur.
Oui,
on est en septembre.
Mais voilà, mais non, c'est souvent, c'est le cas. Donc sur les Alpes du Nord, les averses vont s'espacer au fil de la journée. Sur ces régions de l'Est, partout ailleurs, depuis le Nord-Pas-de-Calais jusque sur les Pyrénées, un petit peu brumeux par endroits ce matin, le soleil va briller dès son lever. En revanche, le vent est toujours très très fort en Méditerranée. Hein. C'est le premier épisode de Mistral important aussi en Basse-Vallée du Rhône et en Provence. C'est le premier de la saison automnale. Il va souffler jusqu'à 110 km/h sur le Var, 110 à 140 sur la montagne Corse. Et là où le vent est le plus fort, c'est depuis hier soir jusqu'à ce matin.
Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve après à 6h30. Dans un instant, bien fait pour vous. Et puis la question conso de retour cette semaine. Y aura-t-il du combustible dans nos poêles et dans nos cheminées à Noël et même avant? On en parle dans un instant. Mais avant cela, les pronostics. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour les Naïcs. C'est sur les 1200 mètres de la ligne droite de l'hippodrome de Chantilly que va se courir ce quintet. Et parmi les 16 partants, il est impératif de faire confiance au numéro 1 Tudobem, 5 Mubaleg et 3 Mysterious Land, classés dans cet ordre aux 3 premières places d'un quintet similaire le 30 août sur l'hippodrome de Dieppe. Et sur la foi de cette bonne performance, ces 3-là devraient pouvoir confirmer et conclure ainsi une nouvelle fois à l'arrivée. On leur opposera Petit Calvados, le numéro 9, lauréat avec désinvolture de la deuxième étape du quintet référence le 30 août à Dieppe, avec Queen of Speed, le numéro 8, une pouliche âgée de 3 ans, visiblement douée, qui n'hésite pas à défier ses aînés avec de légitimes ambitions. Enfin, les numéros 7, Ray Stave, 2, Forza Capitano et 4, Biehead compléteront ma sélection. Mon pronostic, As, 5, 3, 9, 8, 7, 2 et 4.
Merci Thierry Léger.
Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Que vous retrouvez du lundi au vendredi entre 11h et midi. Rediffusion ce matin pour voir un peu ce qui se passe dans la tête d'une maman. Ça a donné quelques idées à Clément Lanoux, le chroniqueur.
Pour ouvrir ce sujet, je suis sûre qu'il a enquêté âprement. On s'attend à tout avec lui. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde, vous le savez, cette émission c'est que des professionnels, que des spécialistes. Qui de mieux qu'un homme qui n'a pas d'enfant pour savoir ce qui se passe dans la tête d'une maman? J'ai essayé quand même. Alors vu de l'extérieur, c'est des chiffres qui n'appartiennent qu'à moi. Il y a 100% d'amour dans la tête d'une maman.
Ouais.
Ça c'était pour faire joli. Maintenant on va creuser un petit peu. Alors on répertorie peut-être 2% pour les amis, 2% pour le travail. Une partie non quantifiable qui serait partie entre sexe, mensonge et culture générale, comme chez tous les êtres humains. Et puis le reste n'est que charge mentale et stress envers sa progéniture. Et ça commence très très tôt. Vous savez, au moment du coucher, quand il est tout petit, et que là d'un seul coup elle se dit « Mais est-ce qu'il dort bien ?» Non. Pardon, je l'ai entendu pleurer. Je laisse pleurer? Non, je ne le laisse pas pleurer. Si. Ils ont dit dans l'émission, ils ont dit quoi? Il ne faut pas subvenir à tous ses besoins comme ça, sinon il aura un trop-plein affectif et du coup il compensera avec la nourriture, il sera obèse. Mais si j'y vais pas, il va être anorexique, il va avoir un manque de... Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Ah, je crois que...
Oh non.
Il tousse.
Oh non,
il tousse, peur. Il est en train de s'étouffer là, il faut que j'y aille. Personne, ils n'ont rien dit dans l'émission, est-ce qu'il faut le laisser tousser? Non, ça va mieux. Ça, regarde, c'est bon. C'est bon, je crois que je l'entends plus. On l'entend plus.
Non, c'est bon.
Ah, c'est bon. Attends, on l'entend plus. Mais peut-être qu'il respire plus. Mais alors que se passe-t-il? Et il se passe ça dans la tête du maman. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de commettre un meurtre. Qu'est-ce qui va? Non, mais on l'entend pas. Il respire ou il respire pas? Je vais aller voir. Je vais aller voir. Ouais. Oh, j'allume la lumière ou pas? Parce que sinon je le réveille. C'est compliqué. Oh, qu'est-ce que je fais? Et ça encore, c'est que la nuit. C'est pour ça que nous, les hommes, on a inventé le ronflement. C'est pour vous signaler que quand on dort, tout va bien. Vraiment. Et la journée, c'est pire quand il se gratte et se dit mais qu'est-ce qu'il a? C'est mon fils. Il a des poux. Ça m'inquiète. Non, peut-être juste qu'il réfléchit. Mais il est peut-être plus intelligent que la norme. Mais c'est peut-être un surdoué.
C'est sûr.
Mais oui, mon fils est un surdoué. Oui, parce que. Alors oui, les mamans, c'est de la peur, c'est de l'émerveillement, c'est la force, c'est la tranquillité. Mais une maman, c'est surtout la meilleure attachée de presse de son enfant.
Oui.
L'amour d'une maman, c'est la conviction que ses petits chatons sont en fait des gros tigres hyper costauds. Je vais prendre l'exemple de ma sœur qui a... J'ai notamment un petit neveu qui a 4 ans et qui a dessiné il y a quelques jours un bonhomme avec des grandes oreilles et un bonhomme pas très droit. Moi, j'ai pris le dessin, pour moi, c'était un bonhomme pas très droit avec des grandes oreilles. Et ma sœur en larmes a dit « Waouh, 4 ans, il comprend tout ». C'est incroyable, quoi, de rendre hommage au prince Charles et tout son royaume, de dire que comme la reine n'est plus là, il est sûrement déstabilisé et il est choqué par le départ de la reine. Mon fils est un génie, c'est incroyable. Et puis après, il y a le côté, mon fils est le plus beau, ma fille est la plus belle. J'ai un petit truc à faire. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est très drôle, vous allez voir. Quand on vous montre une photo de bébé, par exemple, en disant « Regardez comme il est beau », vous prenez le téléphone, vous restez 10 secondes, vous ne dites rien et vous rendez le téléphone.
Ah ouais,
c'est horriblement
gênant. Ah, vous allez créer une angoisse horrible.
Non, mais est-ce qu'il est moche, mais est-ce qu'il... il le trouve pas beau?
Il y en a des très beaux, mais ils peuvent pas être tous beaux.
J'avoue,
vous
me l'avez faite celle-là, elle est pas sympa.
Ah,
franchement.
Voilà.
Mais Clément, ils sont beaux mes enfants, non?
Il était sûrement très beau, j'en sais rien. Non mais je me venge parce que les mamans nous font croire que tout est merveilleux. Quand on demande à une maman quel est le plus beau jour de sa vie, elle nous dit c'est la naissance de mes enfants. Non, je suis pas prof de SVT, mais entre l'accouchement et la conception d'un enfant, j'ai l'impression que la conception est plus agréable. Donc voilà. Pardon les mamans, je vous embrasse. Merci d'exister. Parce que sans vous, on ne serait pas là.
Merci Clément Lanoux. Franchement, vous auriez été une super mère poule. Hein. Vraiment très, très mignon. C'était très intéressant d'avoir votre point de vue pour démarrer ce magazine. On va voir tout de suite ce qu'en pensent nos experts. Alors, Lucie, on va reprendre un peu les bases pour commencer. Comment il fonctionne le cerveau quand on est enceinte? Il lui arrive quoi de différent de d'habitude?
En effet, la grossesse, eh ben, c'est un moment très particulier dans la vie d'une femme, modifiant à la fois son corps, mais aussi son cerveau. Les changements, ils apparaissent très tôt et ils sont vraiment indispensables pour préparer la mère à répondre aux besoins de son bébé, de son nourrisson.
Et donc notre cerveau, dès lors qu'on est enceinte, il se modifie.
Alors, il n'y a pas que l'utérus, quoi.
Ouais. Exactement, les modifications sont très rapides et ces modifications cérébrales, elles sont fondées sur un principe qui s'appelle le principe de neuroplasticité périnatale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à modifier son architecture pendant la grossesse et le postpartum.
Docteur Botman, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre. Durant 9 mois, bah évidemment, on sent notre bébé bouger, mais vous dites que parfois c'est un peu dans la tête en fait. Pourtant, on le sent bien bouger ce bébé, mais vous dites que ces perceptions de grossesse et ces mouvements fœtaux, bah, en fait, il se passe aussi quelque chose au niveau cérébral.
Ça, c'est un phénomène assez fascinant. C'est finalement la perception qu'on a des mouvements du bébé. Eh bien, c'est une perception qui est très subjective. Et ça, ça nous fait appel en fait à tout ce qu'on sait sur la perception au niveau cérébral. C'est qu'en fait, notre perception du monde, de ce qui nous entoure, de notre environnement, c'est pas la réalité vraiment de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que notre vision, notre audition, notre odorat, eh bien, c'est une confrontation entre ce que notre cerveau prédit de ce qui se passe dans le monde et de la réalité des entrées sensorielles qu'on a. Et c'est pareil pendant la grossesse. C'est-à-dire que notre cerveau, enfin, le cerveau des femmes, il va prédire quels sont les types de mouvements, quels sont les changements qui ont lieu en ce moment dans le corps. Il va les comparer à ces informations réelles, mais parfois, eh ben, il y a un petit bug au niveau de cette comparaison entre les prédictions et les entrées sensorielles.
Et ce qui est fou, c'est que ça peut durer surtout une fois que le bébé est sorti du ventre. Franchement, moi, j'en ai fait partie.
C'est
pendant
vrai,
deux, trois mois après, hein, il était né, ce bébé. Je le sentais encore bouger dans mon ventre. Comment on explique ça? J'étais pas folle.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome du bébé fantôme. C'est quelque chose dont on parle très, très peu encore. C'est assez peu connu. Parce qu'en fait, les femmes, pendant très, très longtemps, n'en parlaient pas. C'est quelque chose qui est assez, parfois, on craint d'en parler. On se dit, est-ce que je suis pas folle de sentir ces mouvements? Je sens des mouvements du bébé. Et finalement, par exemple, les femmes en parlent assez peu à leur gynécologue ou à leur sage-femme.
C'est vrai que j'en ai parlé à personne à l'époque, j'avais un peu honte.
On estime qu'il y a environ 40% des femmes qui ressentent ces mouvements fœtaux fantômes après l'accouchement.
Anna, on a une question pour vous au 3921, notre répondeur de Stéphanie, qui nous disait donc en ligne « Je suis enceinte de 6 mois, elle dit qu'elle a tout le temps envie de dormir le soir, il m'arrive même de m'endormir à 19h alors que j'ai fait une sieste, est-ce que c'est normal d'après vous? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Elle s'est transformée
en marmotte ?» Oui, c'est parfaitement normal. C'est tout à fait normal. On l'a vu, les bouleversements et cérébraux mais et corporels sont intenses quand on est enceinte. On réinvente son corps et sa tête. Et donc oui, on est fatigué. Bien sûr, attention, là, je ne sais pas si elle travaille ou pas, mais si vous travaillez trop, il faut vous arrêter. Hein. Être fatigué suffit à demander un arrêt de travail quand on est enceinte pour éviter des complications. Donc C'est tout à fait normal, oui.
Et Hugo, d'ailleurs, dans le cerveau, ça s'explique, les femmes enceintes qui piquent du nez ?
Le cerveau, c'est le chef d'orchestre du corps et de l'esprit. Et finalement, c'est lui qui dirige un peu l'allocation des ressources. Et pendant la grossesse, le cerveau dirige un peu différemment les ressources pour le développement du bébé. Et donc finalement, il y a plus de fatigue aussi, qui est une fatigue qui est réelle, hein, qui est due vraiment à ce développement progressif du bébé. Et parfois, il peut y avoir une hypersomnie comme ça, périnatale.
Bien fait pour vous que vous retrouvez sur Europe 1 du lundi au vendredi de 11h à midi.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
6h18 sur Europe 1 et on fait le point sur l'actu, Clotilde Dumais.
La Guadeloupe placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages. Nous sommes encore en pleine nuit sur place et des rafales à plus de 100 km/h sont attendues à cause du passage de la tempête Fiona. La préfecture recommande d'éviter les déplacements. Le trafic aérien a été suspendu. Pas de fusion entre TF1 et M6. Les deux chaînes abandonnent leur projet, estimant qu'ils ne présentaient plus aucune logique industrielle. Pour valider l'opération, l'autorité de la concurrence réclamait la cession de TF1 ou bien de M6. L'union des deux groupes aurait représenté plus de 30% de part d'audience et les trois quarts du marché publicitaire de la télévision. Aminata Diallo, mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. L'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain a été placée en détention provisoire. Elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression de son ancienne coéquipière Kera Amraoui sur fond de rivalité sportive. Quatre autres personnes ont également été mises en examen. C'est déjà fini pour les Bleus en Coupe Davis. Les tennismen français n'ont non plus aucune chance d'être qualifiés en quart de finale après la victoire de l'Allemagne contre la Belgique. Ils sont éliminés dès la phase de groupe. En revanche, en basket, la France va jouer la médaille d'or européenne. Le capitaine Evan Fournier et son équipe ont écrasé la Pologne hier 95-54. Ils affronteront l'Espagne en finale demain soir.
Merci Clotilde. À tout à l'heure. Vous restez bien avec nous. Mon premier invité arrive. Nous serons avec Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. À tout de suite.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier. Est-ce qu'il y aura du combustible dans nos poêles, dans nos cheminées à Noël et même avant, un peu partout en France? Le constat est unanime. Les distributeurs, notamment de granulés de bois, croulent sous les clients. On va en parler dans un premier temps. Dans de nombreux magasins, ces dernières semaines, les rayons sont à peine remplis. Les pelés disparaissent dans la journée. Bonjour Frédéric Plan.
Bonjour.
Alors vous êtes délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Il y a 7 millions de Français qui sont concernés par ce mode de fonctionnement de chauffage. Vous êtes un petit peu victime de votre succès. En ce moment, si on va dans les grandes surfaces, les gens font la queue pour acheter des granulés de bois. Et en plus, ils en achètent plus que d'habitude, plus que les autres années.
Il y a un phénomène très conjoncturel qui effectivement s'observe déjà depuis presque 2 mois, où la demande en granulés de bois est plus forte que les années passées. Alors ça s'explique de deux façons. Mmh. La première raison, c'est que le nombre d'installations utilisant les granulés de bois ne cesse d'augmenter sous l'effet des primes gouvernementales. Ça, c'est un premier point. Donc le parc des appareils augmente finalement plus vite que la capacité de production des granulés de bois. Et ensuite, il y a un deuxième phénomène qui est un phénomène de crainte de la part des consommateurs, parce que le contexte énergétique pour toutes les énergies est effectivement un peu inquiétant. On entend parler de pénurie, de tension sur l'approvisionnement électrique, gaz et maintenant bois. Et donc, ce phénomène d'inquiétude amplifie la demande consommateur. Cela étant, compte tenu du fait que le parc des appareils augmente beaucoup plus vite que la capacité de fourniture, et dans l'hypothèse d'un hiver froid, hein, il en est de même pour l'électricité, très clairement, il y a une possibilité pour qu'il manque entre 5 et 10% de granulés pour pouvoir approvisionner tout le monde. Ce risque pour l'hiver, en fait, c'est-à-dire à partir de
bientôt, là,
janvier, février, en fait, peut être contourné par un recours aux importations qui n'est pas encore assuré. Donc, tous les professionnels y travaillent. Enfin, je parle des fournisseurs.
Bien sûr.
Donc, on verra bien. Mais c'est vrai qu'il y a une zone d'inquiétude. Cela étant, il y a deux types de clientèle. Hein. Il y a ceux qui utilisent des granulés de bois pour des appareils de chauffage d'appoint. Ils ont une autre source.
C'est pas pareil, c'est pour toute la maison ou pour une seule pièce.
Et je dirais que S'il y a des gens dans un contexte où il y aurait une tension trop forte, telle que je l'ai décrite, mm-hmm. il est évident qu'il faudra approvisionner en priorité ceux dont c'est désormais l'unique moyen de chauffage.
Alors, est-ce que les prix vont encore augmenter? Parce que là, on a vu hein, quand même la facture s'alourdir sérieusement au mois d'août, au mois de septembre. Il y a un risque encore d'augmentation?
Alors, c'est une inconnue totale. C'est-à-dire qu'effectivement, les prix, si on les compare à ceux de l'an passé, ont plus que doublé. Oui. Dans la plupart des régions, on est au-dessus de 700 euros la tonne. Donc, c'est une plus qu'une mauvaise surprise. Enfin, c'était totalement inattendu. En matière de prévision, il faut comprendre que enfin, les prix ne peuvent pas baisser tout de suite. Parce que, comme je le disais, et pour pallier le besoin nécessaire à toutes ces nouvelles installations, il faut recourir à de l'importation. Et sur le marché de l'importation, il y a une course entre plusieurs pays qui ont les mêmes problématiques, et donc finalement il y a de la surenchère. Donc les prix ne peuvent pas baisser en tout cas tout de suite. Maintenant, à savoir s'ils vont augmenter et dans quelle proportion, franchement on n'a pas de visibilité là-dessus, les fournisseurs ne donnent aucune indication. Et contrairement aux autres énergies, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de cotation de marché.
Alors, je voudrais parler également du fioul, parce qu'il y a plus de 3 millions de résidences principales qui se chauffent au fioul domestique. Ça fait quand même 10 millions de Français. Là, c'est pareil, les cuves sont remplies, il faut commencer, il y a urgence?
Alors, il y a beaucoup moins de problématiques sur l'approvisionnement en produits tels que le fioul domestique, parce que, je veux dire, il est disponible de beaucoup de pays exportateurs. Alors, ce qu'il y a de vrai, c'est que compte tenu du fait que les prix ont quand même, eux aussi, augmenté d'une façon très significative par rapport à l'an dernier, hein, ça n'a pas doublé, mais enfin, il y a pratiquement 60% d'augmentation si on parle pour les prix d'aujourd'hui. Beaucoup de consommateurs ont différé leurs achats en espérant, parce que ça se passe souvent sur ce marché-là, que les prix fluctuent et donc à la baisse. Maintenant, le froid arrive et donc, ce que nous avons constaté, c'est que il y a un retard d'approvisionnement des cuves comparé d'une année à l'autre. Et cette année, le retard est à peu près de 10 à 15%.
Alors, le fioul a un peu moins la cote. Hein. Il est un peu politiquement incorrect. J'aimerais que vous me parliez du biofuel, une alternative au fioul domestique. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut s'en servir maintenant?
Alors, le biofuel, c'est un biocombustible liquide dont la caractéristique, puisqu'il est mis sur le marché dans quelques jours, et de contenir jusqu'à 30% d'énergie renouvelable. D'accord. Alors, pourquoi la mise sur le marché d'un tel produit? Eh bien, parce qu'il est obligatoire pour les chaudières qui sont installées maintenant. Toutes les chaudières neuves de type fioul installées désormais doivent utiliser ce biocombustible. Et les chaudières sont disponibles, sont compatibles. Il n'y a pas de problématique de ce point de vue.
D'accord.
Par contre, si un consommateur qui a une chaudière déjà en service voulait l'utiliser, il lui faudrait modifier son brûleur, en fait, à vrai dire le changer, parce que les caractéristiques de ce combustible qui produit la même chaleur, etc., font qu'il a des propriétés physiques qui n'est pas, comment dirais-je, les anciens brûleurs ne sont pas tous compatibles
adaptés.
Avec ce produit.
D'accord. D'accord. Donc, il y a encore un petit peu à évoluer sur ce plan-là. Merci beaucoup, Frédéric Plan. C'est passé très vite. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Europe 1. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining?
Et c'est Imagine Dragons qui vous réveille ce matin sur Europe 1. Il est 6h30.
Europe Matin Weekend.
Lénaïque Monnier.
Le temps de retrouver le journal de Clément Barguin. Bonjour Clément.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. C'est une rentrée soigneusement préparée après 3 mois de diète médiatique. Édouard Philippe fait son retour sur la scène politique.
35 millions d'euros, c'est ce que pourraient coûter les funérailles de la reine Elisabeth II. Un montant qui a de quoi donner le tournis à l'heure où des milliers de Britanniques subissent de plein fouet l'inflation.
Maillot, bonnet de bain et lunettes, vous allez pouvoir de nouveau nager. Les 30 piscines fermées par l'exploitant Vert Marine rouvrent
ouvre leurs portes. Et puis une défense de fer, une attaque incisive. L'équipe de France de basket prend le large face à la Pologne. Elle se qualifie pour la finale de l'Euro.
Au programme de la prochaine demi-heure, drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Benchemane a rencontré Christophe Willem. On partira à Besançon avec Vanessa Zah et nous mangerons des cèpes avec Olivier Pouls. Mais avant cela, une tendance météo, Valérie Darmon.
Beaucoup de fraîcheur ce matin avec 4 à 8 degrés du nord-ouest au centre. Quelques averses près des frontières du nord et un mistral qui souffle à 90 km/h en rafale de la vallée du Rhône à la Provence.
Merci Valérie, on vous retrouve à la fin du journal. Après une cure de silence, Édouard Philippe est à Fontainebleau pour les premières journées parlementaires d'Horizon.
L'ancien Premier ministre réunit son mouvement pour plancher sur les prochains mois de ses députés à l'Assemblée nationale. L'occasion pour lui de s'affirmer dans la majorité, Arthur Delaborde.
Une petite nouveauté sur la forme, après presque 3 mois de diète médiatique.
Je suis en train de faire un discours qui, pour la première fois, a été écrit sur une tablette. J'ai voulu donner une espèce de vernis de modernité à cette affaire.
Mais c'est sur une tonalité beaucoup plus grave qu'Édouard Philippe expose pendant plus d'une heure ce qu'il appelle les vertiges du monde, plaidant pour de la lucidité sur des thèmes souvent marqués à droite, sécurité, justice, finances publiques ou encore réforme des retraites.
Madame la Première Ministre, nous serons derrière vous pour améliorer notre système de retraite. Que vous choisissiez de le faire en octobre, en décembre, en mars, quand vous voudrez.
Un soutien inconditionnel alors que certains le disaient opposé à une réforme des retraites express intégrée au budget de la sécurité sociale dès cet automne. Dans la foulée, Elisabeth Borne, elle, laisse entendre qu'elle n'hésitera pas à avoir recours au 49-3 pour faire passer le projet de loi de finances.
Notre pays a besoin d'un budget et nous sommes déterminés à le lui donner. Nos institutions sont bien faites, elles ont prévu cette situation et les moyens de la surmonter.
Elisabeth Borne, qui comme son prédécesseur à Matignon, pourrait donc utiliser l'arme du 49-3. La dernière fois qu'elle avait été brandie, c'était par Édouard Philippe, début 2020, sur la réforme des retraites.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. À l'occasion des journées du patrimoine, Emmanuel Macron annonce la prolongation du loto du patrimoine pour au moins 5 ans. Depuis son lancement en 2018, 200 millions d'euros ont été récoltés pour la sauvegarde de 745 sites en péril.
Et les journées du patrimoine qui sont également l'occasion, Clément, de visiter des sites habituellement fermés au public, comme l'ambassade du Royaume-Uni.
Oui, les visites se déroulent de 10h30 à 17h30. Le public pourra notamment signer le registre de condoléances.
Le Royaume-Uni, justement, où le coût des funérailles d'Elisabeth II en pleine crise économique divise les Britanniques.
Le deuil et le recueillement se poursuivent après le décès d'Elisabeth II. Hier soir s'est tenue la traditionnelle veillée des princes. Les enfants de la reine se sont recueillis devant le cercueil pendant une quinzaine de minutes. Les funérailles se dérouleront lundi. Elles sont estimées à 35 millions d'euros. Une somme exorbitante pour les classes populaires qui subissent de plein fouet l'inflation. Le reportage de Thibaut Hu, envoyé spécial à Londres.
Les yeux écarquillés, Marie, en claquettes roses et t-shirt jaune, reste sans voix en apprenant la nouvelle. Plusieurs dizaines de millions d'euros pour les funérailles de la reine, inconcevable pour la jeune femme qui vit ici, à Barking, un quartier pauvre à l'est de Londres.
Bien sûr, un décès, c'est tragique, mais bon, certaines personnes ne peuvent même pas s'acheter à dîner, alors tout cet argent dépensé...
Un peu plus loin, Linda croque dans un sandwich au jambon, sa fille de 3 mois, près d'elle, dans une poussette. Cette hôtesse d'accueil gagne seulement 1200 euros par mois, alors ses dépenses pharaoniques sonnent comme une insulte.
Je pense que c'est ridicule. Dépenser tout cet argent pour quelqu'un qui est mort, bien sûr, c'est triste. Mais c'est aussi triste de voir des gens pauvres, agonisants, malades. Je suis obligée de vivre chez ma mère, peu importe ce que je gagne par mois. Je survis, je ne vis pas.
Un sentiment d'injustice partagé par Ali avec la crise économique qui secoue l'Angleterre et l'imaginer un enterrement plus sobre. La violente inflation a mis ce vendeur de tapis à genoux.
Je me bats pour payer ma facture de gaz et d'électricité qui est 10 fois plus chère que d'habitude. Cet argent aurait pu être dépensé pour faire en sorte que l'électricité soit moins chère. Ce n'est pas juste.
Et Ali le précise, le jour des funérailles, pour lui, ne sera pas férié. Impossible, dit-il, de perdre un jour de travail. À Londres, Thibaut Hu, Europe 1.
Londres, où la livre sterling aussi est en deuil, c'est un des effets collatéraux du décès de la reine Elisabeth qui fragilise une économie déjà en crise. La monnaie britannique, en perte de vitesse depuis le début de l'année face au dollar, a chuté de plus de 1% hier, minée par les craintes de récession.
Et face à l'inflation, elles avaient fermé leurs portes finalement. Elles vont rouvrir.
Les 30 piscines fermées début septembre seront toutes rouvertes avant la fin de la semaine prochaine. C'est ce qu'annonce Vermarine. L'exploitant avait justifié ces fermetures brutales par l'explosion des prix de l'énergie. Une décision vivement critiquée par les collectivités locales et la Fédération française de natation. Après négociation, les nageurs vont pouvoir regagner les bassins, Baptiste Morin.
Oui, c'est le cas à Nîmes, à Granville, à Limoges, à Versailles ou encore la piscine de Payron à Paris. Toutes seront ouvertes dès ce samedi. Vermarine et les collectivités ont trouvé un accord au cas par cas. Soit la collectivité s'est engagée à prendre à sa charge une partie du surcoût dû à l'explosion des prix de l'énergie, soit la collectivité fait bénéficier le gestionnaire de contrats énergie aux tarifs plus avantageux. Et c'est le cas à Versailles. Première piscine à trouver un accord avec l'entreprise délégataire et à rouvrir. Mais François Demazière, le maire, le précise, ce n'est que temporaire.
Notre propre contrat, si vous voulez, il va jusqu'à la fin de l'année. Donc il va falloir revoir dès le début de l'année prochaine le dispositif.
Les fermetures se prolongent dans d'autres communes. Certaines, comme Nogent-le-Rotrou, ont porté l'affaire devant la justice.
Les précisions de Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
Allez, des lignes d'eau, on passe au terrain de basket. Ça marche bien pour les Français qui accèdent à la finale de l'Euro.
Oui, l'équipe de France s'est largement imposée hier soir 95-54 face à la Pologne en demi-finale de l'Euro de basket. Une large victoire qui permet aux Bleus d'accéder à la finale, Lucas Courtin.
Oui, on peut même parler d'une petite correction que la France a infligée à la Pologne hier en fin de journée. L'un des matchs les plus aboutis où tous les ingrédients étaient réunis avec notamment cette défense de fer que les hommes de Vincent Collet ont imposée à des Polonais maladroits au tir. Les Bleus ont aussi pu compter sur un Gershon Yabusele impérial et auteur de 22 points, ce qui a permis aux Français de mener 34-18 à la pause. Au retour des vestiaires, même scénario, l'équipe de France prend définitivement le large pour s'imposer brillamment 95-54. Une prestation plus que satisfaisante pour le capitaine tricolore Evan Fournier au micro de Canal+.
C'est surtout que c'est un match complet, de la première à la dernière minute. Tout le monde a pu jouer, on a vraiment été sérieux sur l'attaque ou en défense. J'ai pas le souvenir d'avoir eu quelques possessions de suite où on joue pas notre jeu. Et ça, c'est très positif pour la finale.
En parlant de finale, ce sera la 7e en compétition internationale que les Français disputeront dimanche soir à Berlin. Et pour décrocher une 2e couronne européenne après 2013, il faudra venir à bout de l'Espagne, la bête noire des Bleus et ultime adversaire dans cet Euro.
Lucas Courtin du service des sports d'Europe 1.
Et Total Maîtrise titre d'ailleurs l'équipe ce matin. Merci Clément Barguin.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure ? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Valérie Darmon, on surveille sous quel genre de météo ce matin ?
Alors, les éclaircies vont être très généreuses dès le lever du soleil pour la journée dans l'ouest et sur une partie du nord de la France, du côté de la Normandie, parce que sur le reste du nord de la Seine jusqu'en Rhône-Alpes, le ciel sera très nuageux et pluvieux. Mm-hmm. Sur le Jura et sur les Alpes du Nord, il va même neiger dès 1500 mètres. Mistral et Tramontagne soufflent aussi à 100 km/h, tandis que le vent d'ouest jusqu'à 140 sur les montagnes corses. Les températures, elles sont en baisse, on l'a senti. Vous avez un foulard autour du cou,
absolument,
avec même un risque de faible gelée blanche ce matin. Alors je vous donne juste quelques valeurs. 5 à Montluçon, 7 à Embrun, 8 à Caen, 9 à Amiens, 11 degrés à La Rochelle et Bordeaux et 16 degrés à Toulon.
Alors couvrez-vous si vous allez faire un footing ou bien restez tout simplement à l'écoute d'Europe 1. Dans un instant, drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Abenchéman qui est accompagnée de Christophe Willem cette semaine. A tout de suite.
Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Et à 6h40 sur Europe 1, comme tous les samedis, une personnalité, un lieu des confidences. Naïma Benchemann est avec Christophe Willem. Mais où se sont-ils retrouvés ? Je vous laisse le découvrir.
Bonjour Christophe Willem.
Bonjour.
Drôle d'endroit pour une rencontre. Merci de m'avoir donné rendez-vous à quelques pas de la salle Pleyel, une salle de concert si prestigieuse à Paris où vous avez été si fière de vous produire en 2018. La salle Pleyel, c'est là aussi que vous produirez l'année prochaine avec Panorama, votre nouvel album.
Exactement. C'est vrai que c'est un endroit que j'aime particulièrement. Alors j'aime évidemment la scène est magnifique, il y a une ouverture de salle sublime et puis en plus cette salle a été entièrement refaite il y a quelques années et maintenant on est dans un lieu vraiment magique et j'aime bien voilà, cette idée d'accueillir le public dans un écrin et leur montrer à quel point ils sont importants et que ce concert c'est un échange, le concert c'est toujours un échange entre le public et l'artiste et les deux doivent se sentir bien et j'aime bien ce lieu pour ça.
C'est vrai qu'il y a une vraie intimité justement dans cette salle, une intimité d'ailleurs qu'on retrouve dans Panorama, ça faisait 4 ans. On n'avait pas eu l'occasion de vous entendre après l'album Rio. Vous avez décidé de prendre le temps pour nous offrir les 14 chansons de cet album et pour nous donner un avant-goût sur vous.
C'est quoi le problème ? Je suis plus moi.
peu un mélange de tout ça. C'est vrai que Ben, je t'aime, c'est le titre qui a ouvert cet album avec la collaboration avec Slimane. J'étais en quête de retrouver un sens à tout ça. Et Slimane est arrivé à point nommé et a proposé cette chanson qui est effectivement un cri d'amour avec le public. C'est un titre de retrouvailles et en même temps une façon aussi à moi de me dire bah, une partie de moi n'est plus là. C'est aussi ça la vie, c'est évoluer, avancer toujours vers quelque chose
faire
de nouveau.
Faire le deuil de certaines choses.
Exactement, et être dans l'acceptation justement de cette évolution naturelle.
Caméléon, qu'en dira-t-on ? Je m'emballe bien de tout ça.
Avant de nous concentrer sur le fond, un mot sur la forme de cet album. Avec Panorama, c'est un peu un nouveau Christophe Willem qu'on a l'impression de découvrir. Vous, d'une nature si pudique, ou du moins c'est ce que vous nous montriez à l'époque, vous lâchez prise. Et votre voix si aiguë arbore des tonalités plus graves. Est-ce que parce que, comme vous commenciez un peu à me le dire, aujourd'hui, vous assumez vraiment votre double jeu ?
Et complètement. D'ailleurs, je me souviens très très bien de cette interview que vous aviez fait à l'époque sur Je t'aime. Ça m'avait marqué.
C'est vrai.
Ouais. Vous expliquiez que justement, Je t'aime, ce serait un peu le vrai double jeu où la voix basse rencontre la voix aiguë, où l'intime rencontre le public. Plus à l'image de ce que je suis dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt très spontané.
C'est vrai.
Et j'ai eu tendance à beaucoup me cacher derrière du son.
Vous introvertir.
Exactement.
Je vais exploser.
C'était l'envie justement de chanter d'une manière plus basse, plus proche de ma voix parlée, pour mettre aussi en avant les textes.
Aussi.
Voilà, parce que pour moi, c'est vraiment un album dans lequel c'est la narration le fil conducteur et pas l'ambiance sonore en fait.
Un peu fébrile, un peu fou. Un peu terrible, un peu tout. Un peu perdu dans ce monde-là. Un peu comme toi et moi.
Depuis la nouvelle star, Christophe Willem, et ce surnom, la tortue, qui longtemps vous a collé à la peau, je crois qu'on peut dire que vous avez, avec brio, réussi votre mue grâce à des rencontres, hein, comme celle avec Slimane, et grâce aussi à votre résilience, parce qu'avec Panorama, votre style, il est plus intimiste. Enfin, vous parlez de vos fantômes, c'est le titre d'une chanson ici, de votre solitude, c'en est une autre. Vous vous confiez enfin sur ce qui vous anime.
Exact. En fait, je me confie enfin sur ce qui fait partie de moi, ce qui n'est pas la face publique. On m'a souvent des fois collé une étiquette qui n'était pas l'étiquette exacte. On m'a souvent des fois perdu des propos qui n'étaient pas les miens. Il y a toujours des réputations qui vont aussi avec la notoriété. Et pour moi, cet album, c'est une façon de dire, bon voilà, en gros...
Au revoir à tout ça.
Voilà, au revoir à tout ça. Revenons à la source.
L'essentiel.
Et l'essentiel, c'est justement quand on peut se définir soi-même, se représenter soi-même à nouveau. Et c'était ça vraiment l'envie première.
Moi, j'avance. Droit devant tout droit, moi, j'avance.
Christophe Willem, je le rappelle, donc on est à quelques pas de la salle Pleyel. Vous allez retrouver votre public, ce public qui vous manquait tant. Entre le public et vous, c'est très fort depuis vos débuts. Vous qui... pendant très longtemps, avez eu aussi ce besoin impérieux de vous épanouir dans le regard de l'autre.
Tout, complètement.
Vous avez eu peur aussi de le perdre longtemps, l'amour de ce public. Comment vous vous sentez à l'idée de lui présenter Panorama d'ici quelques semaines ?
Très, très excitée. C'est vrai que Panorama, c'est un album intime. Mais pour moi, c'est un album intime qui va, en tout cas, c'est mon souhait, toucher l'intime de ceux qui l'écoutent. Et je pense que c'est
entre
que...
toi et moi.
Mais c'est ça.
Je tomberai pas dans le panneau.
On se sent presque dans une espèce de conversation intime, comme on l'est là, hein, face
Exactement.
À face. Et c'est la sensation que je voulais quand on écoute cet album. Et évidemment, quand on est sur scène, bah, c'est le moment où tout prend une dimension différente, où d'un seul coup, il n'y a plus le prisme des médias, il n'y a plus le prisme du ressenti, mais c'est l'émotion brute, directe, à l'image et à l'image de ce qui a été initié dans le travail d'écriture de l'album.
Panorama. C'est un peu pour moi les deux faces d'une même médaille. Il y a un côté sombre, il y a un côté lumineux, un double jeu incessant. Bref, un panorama de la vie qui est comme une route cabossée qu'on apprivoise. C'est ça, Christophe Willem ?
C'est exactement ça. C'est un album, pour moi, une ode à la résilience. C'est une manière de se dire que moi, c'est un album qui a été utile dans ma vie, réellement, qui m'a aidé à un moment un peu compliqué. Et j'espère qu'il aura cette même utilité pour celles et ceux qui l'écoutent. Mon souhait premier, c'était vraiment ça. Se dire que la vie... n'est pas un long fleuve tranquille. Et heureusement, d'une certaine manière, et que souvent, quand on accepte sa vulnérabilité, quand on est dans l'acceptation des choses,
on
peut leur permettre... Ouais, et aussi, on peut permettre d'accueillir la suite, l'avenir. Et que souvent, aujourd'hui, dans une société où on se focalise énormément sur les choses qu'on est en train de vivre et ça bloque la circulation des énergies et la suite. Et c'est ça que cet album explique aussi.
Vous avez bien sûr regardé dans le rétroviseur pour pouvoir avancer, c'est bien ?
Exactement.
Dans le regard de l'autre, mon amour propre a pris sa place en catastrophe.
Cet album, c'est un peu comme un exutoire où à travers une colère saine, j'insiste bien, vous vous assumez pleinement. Vous avez avancé, Christophe Willem, et vous le dites, vous le chantez, vous tenez bon dans le noir. Vous ne tomberez pas, vous ne tomberez plus.
Je ne tomberai plus dans les écueils ou dans les petits trous qui se trouvent sur la route. C'est un album, j'espère, qui donnera de la force. Voilà, c'est ça que je veux véhiculer.
Et en même temps, pour boucler un peu une boucle, je rappelle qu'une tortue, ça a la carapace très solide.
Ça avance lentement, mais sûrement.
Sûrement, exactement.
Je laisserai personne sur le carreau, la galère se rendra tôt.
Merci Christophe Willem de ce drôle d'endroit pour une rencontre. La beauté ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui fait la beauté. Vous adorez cette citation de Tolstoï parce que vous l'avez tweetée il y a quelques jours.
Oui.
Et c'est un peu, je crois aussi, un joli condensé de panorama, votre nouvel opus. Alors merci beaucoup.
Merci à vous, merci.
Christophe Willem avec Naïma Betcheman que vous retrouvez tous les samedis à 7h-20 et sur Europe 1.fr.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Merci de vous réveiller sur Europe 1. Il est 6h47. Le point sur toute l'actu, Clément Barguin.
Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté les atrocités commises à Izioum. Des centaines de corps enterrés ont été retrouvés près de cette ville reprise aux Russes par l'armée ukrainienne. 99% des cadavres présentent des signes de torture selon les autorités locales. Insoumis, écologistes et socialistes organisent une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Le rendez-vous est donné par les membres de la NUPES. Ce sera le 16 octobre prochain. La Guadeloupe placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages en raison du passage de la tempête Fiona. Les déplacements sont à éviter, prévient la préfecture. Le trafic aérien est suspendu. Les vents pourraient atteindre jusqu'à 120 km/h selon Météo France. Et puis l'équipe de France de basket se qualifie pour la finale de l'Euro en écrasant la Pologne 95-54. Elle affrontera sa grande rivale l'Espagne en finale. Ce sera dimanche à 20h30.
Merci Clément. Allez, dans une minute, on part en balade à Besançon. Ce week-end de journée du patrimoine et nous allons manger. J'ai hâte des cèpes avec Olivier Pouls. À tout de suite.
Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
La balade du samedi, Vanessa Zah, Olivier Pouls qui m'accompagne comme tous les week-ends. Bonjour.
Bonjour
à tous.
Alors, on va commencer avec vous, Vanessa. Nous partons à Besançon à l'occasion de la 7e édition d'un festival littéraire.
Exactement, le festival Livre dans la boucle. Alors, vous allez me dire pourquoi boucle ? On se met tout de suite dans le bain avec Christine Bresson qui est la directrice du festival.
C'est la boucle du Doubs qui en fait encercle le cœur de ville de Besançon. Donc en fait quand on est bisontin, effectivement on habite ou pas dans la boucle. Et la boucle c'est un petit peu le symbole de Besançon parce que Besançon est une île en fait. Elle est entourée d'eau avec même un passage par écluse. Et du coup le cœur de ville est dans ce petit écrin d'eau que représente le Doubs.
Donc ça va être au cœur de ce patrimoine naturel, mais pas seulement, aussi au cœur du patrimoine culturel, en fait, artistique de Besançon, que vont se réunir 200 auteurs. Il y a quand même Tatia de René, qui est aussi la présidente de l'événement, Olivier Adam, Michel Bussy, Yasmina Kadra, du Bollinge, exactement, mais aussi des premiers romans. Et donc ils vont présenter leurs livres dans des lieux assez incroyables, parce que c'est des lieux culturels. Elle est là, en fait, l'originalité du festival. Mmh. Ils partent à la rencontre des autres arts, donc la musique, la peinture, le théâtre. Et il va y avoir dans ces lieux donc des dialogues, des animations qui ont lieu, comme par exemple ceux que Christine nous propose.
Les auteurs jeunesse sont accueillis, il y a une quarantaine d'auteurs qui sont en dédicace en plein cœur du musée des Beaux-Arts de Besançon. Nous investissons aussi la maison natale de Victor Hugo, puisque Victor Hugo est né à Besançon en 1802. Et nous avons un musée qui retrace des combats de ce grand homme. Et donc nous avons aussi une douzaine de rencontres qui sont organisées par exemple à la maison Victor Hugo.
Alors c'est un bon prétexte, un, pour découvrir les lieux emblématiques de Besançon et aussi parce qu'on le rappelle, ce week-end, c'est les journées européennes du patrimoine.
Tout à fait. Justement, je vais vous emmener découvrir une autre facette du patrimoine de Besançon. Je vous mets sur la piste, écoutez.
Besançon, ville horlogère. Grande histoire de
exactement, la capitale du temps, la capitale de l'horlogerie. On la remonte, justement, cette histoire. Les aiguilles du temps, ça débute il y a 200 ans. En fait, les horlogers suisses fuyaient leur pays à cause du chômage. Et oui, ça arrivait même en Suisse. Et en 1793, il crée la première manufacture d'horlogerie à Besançon. Et c'est un savoir-faire qui est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis maintenant 2 ans. Il y a des spots qui lui sont dédiés, il y a même un parcours dans la ville. Entre autres, le musée du temps qui abrite le fameux pendule de
Foucault.
Bravo, quelle culture! Et aussi l'horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean. C'est l'une des plus sophistiquées avec celle de Beauvais. En fait, c'est une horloge universelle qui indique l'heure des 5 continents. Mais ça depuis le XVIIIe siècle.
Et c'est absolument fascinant de voir ces horloges et tout ce travail qu'il y a derrière d'horlogerie. C'est vraiment...
Ça vous fascine ?
Ah ouais.
Alors vous savez qu'on peut visiter justement des ateliers pour vous renseigner auprès de l'Office du Tourisme. Et à certaines périodes de l'année, on peut même participer à des ateliers de 2 jours pour devenir horloger et repartir avec sa propre montre.
C'est génial.
Ça vous tente ? Besançon-tourisme.com.
Alors, voilà. Où est-ce qu'on dort ? Parce qu'on va y rester un petit peu quand même.
Allez, 2 adresses. Une accessible, la maison d'hôte, la Villa Molina. C'est charmant, mais c'est accessible, 95 €. Et sinon, le plus bel hôtel de Besançon, au pied de la citadelle, évidemment, c'est un ancien monastère, le Sauvage.
Alors, je ne sais pas si on trouve des champignons au pied de la citadelle, mais en tout cas, on a vu Olivier Pouls arriver avec un beau sachet, une belle poche
De cèpes.
Voilà, les cèpes. Moi, j'y connais pas grand-chose en champignons, mais là, c'est charnu, c'est un cèpe.
C'est quand même des champignons assez faciles à reconnaître. C'est le champignon très classique, un joli pied un peu arrondi, un chapeau. Si vous avez un doute, quand vous en trouvez en forêt, vous allez évidemment voir le pharmacien, il pourra vous rassurer. C'est une très belle saison à cèpes qui s'annonce, elle a démarré. Tous les facteurs sont réunis pour pouvoir les récolter, c'est-à-dire de l'humidité, il n'en finit plus, qui est sur les sols, une température qui redescend un tout petit peu. Donc ça y est, ça va pousser un peu de partout. Alors des Vosges, en passant par le Jura, en passant par la région bordelaise, évidemment, et même la Bretagne, et même la région parisienne, figurez-vous, en forêt de Fontainebleau, par exemple, on peut trouver des cèpes. Alors allez-y ce week-end, allez-vous balader, on ne sait jamais, ça ne vous coûtera rien.
Si vous avez un coin, c'est
voilà, si vous avez un coin. Si en revanche vous n'en avez pas, direction le marché, c'est ce que j'ai fait. Ça coûte un peu plus cher, suivant les régions dans lesquelles vous vous trouvez, entre 15 € et jusqu'à 40 € sur les marchés parisiens. Le cep se choisit bien ferme, c'est très important. Si vous sentez que le pied est un peu mou, ça veut dire qu'il y a probablement des vers à l'intérieur, qu'il est habité. Et malheureusement, on ne pourrait pas en faire grand-chose. Il faut en tout cas le laver avec beaucoup de délicatesse. On va gratter avec un petit couteau toutes les parties terreuses, les couper éventuellement si c'est un peu trop marqué. Et puis avec un sopalin humide, on caresse le chapeau, on nettoie gentiment. On ne les immerge jamais dans l'eau parce que les cèpes, c'est une éponge et ça va se gaver d'eau. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut les manger crus, bien évidemment, coupés très finement en carpaccio. Petite huile de noisette, ça rappelle le goût du cèpe. On saupoudre avec une petite touche de parmesan, de ciboulette.
Toujours très parmesan, Olivier.
Mais je trouve que ça donne du goût. Évidemment, et puis sinon, la recette traditionnelle, c'est le cèpe en persillade. Petite pointe d'ail, pas trop, parce qu'il ne faut pas écraser, évidemment, le goût du cèpe. Le persil, roulé dans de l'huile, un mélange huile-beurre, de manière à les colorer gentiment. Ça marche très bien. Et ça marche aussi très bien, on peut rajouter, on en a parlé la semaine dernière, une petite touche de figue. Mettez des petits morceaux de figue. Figue-cèpe, c'est absolument délicieux ensemble. Si vous ne voulez pas le faire vous-même...
Oui, parce que vous êtes un crack en cuisine, mais nous, on peut aller sous la table.
À Paris, le grand chef Jean-Pierre Vigato, dans son restaurant Les Disciples, fait dans les règles de l'art cette poêlée de cèpe. Et puis sinon, vous pouvez aller du côté de Bordeaux, de Lormont exactement, au Prince Noir, un peu plus gastronomique, mais un travail tout réussi autour du cèpe par Vivien Durand, le Prince Noir, à côté de Bordeaux, des cèpes évidemment de la région bordelaise.
Et nous avons déjà faim à presque 7h du matin. Merci à tous les deux.
Ben, c'est le but, hein.
On l'a dédié à Marion Sauveur, cette chronique.
Ah mais oui, hein, on félicite Marion Sauveur pour la naissance d'une petite
Valentine.
Qui ne mange pas encore de cèpe, mais ça viendra.
Mais à mon avis, ça sera pour très bientôt. Merci beaucoup, à demain.
Bonne journée.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller en ce samedi matin. Il est 7h.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
À l'heure de retrouver Clotilde Dumais pour le journal. Bonjour Clotilde.
Bonjour Léna Aigmonier, bonjour à tous. La renaissance de la République en marche. Le parti présidentiel doit officiellement adopter son nouveau nom ce soir au cours d'un congrès annoncé comme déterminant.
Pour ou contre l'accueil de migrants dans les Côtes d'Armor, un village se divise face à cette question. Emmanuel Macron a dit vouloir mieux répartir la prise en charge des étrangers, notamment dans les zones rurales.
Et puis quand la rivalité dépasse le terrain du sport, Aminata Diallo a été mise en examen pour violence aggravée. L'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain est soupçonnée d'avoir commandité l'agression de son ex-coéquipière Kera Amraoui.
Dans la prochaine demi-heure, on parle de ces remakes meilleurs que les films originaux avec Mathieu Alterman. Et puis j'accueille Jonathan Denis, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Il va nous donner son point de vue sur le débat qui reprend à ce sujet. Ce sera juste après cette tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, du très beau temps sur quasi l'ensemble de la France, avec des valeurs cet après-midi, entre 16 à Sedan et 28 à Brignoles.
Et on vous retrouve à la fin du journal. Clotilde, les marcheurs s'apprêtent donc à prendre un nouveau chemin.
Les militants sont appelés à se prononcer sur les statuts d'un nouveau parti. Un congrès est prévu ce soir au Carrousel du Louvre à Paris, où 2000 personnes sont attendues. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Un congrès annoncé comme fondateur.
Oui, ne dites plus La République en marche. Ce soir, le parti présidentiel s'appellera officiellement Renaissance, un nouveau nom et un nouveau dirigeant à sa tête. Stanislas Guérini, délégué général depuis près de 4 ans, désormais ministre de la Transformation et de la Fonction publique, va laisser sa place à Stéphane Séjourné. Ce député européen très proche du chef de l'État va devenir le nouvel homme fort de la Macronie. Son mandat courra jusqu'en novembre 2024, 2 ans au moins à la tête du parti, avec une mission qui s'annonce délicate, préparée l'après Emmanuel Macron, qui au passage sera le président d'honneur de cette formation. Pour cela, Renaissance va absorber 2 partis, Territoire de Progrès à sa gauche, dirigé par Olivier Dussopt, et Agir à sa droite, défendu par Franck Riester. Mais ni le Modem de François Bayrou, ni Horizon d'Édouard Philippe n'ont accepté le deal d'un grand mouvement politique d'unité et d'action envisagé par Emmanuel Macron au soir du second tour de la présidentielle. Elisabeth Borne sera la première à prendre la parole à 20h. 2027 déjà dans toutes les têtes, au point de le notifier noir sur blanc. Les statuts de Renaissance prévoient que le parti présentera un candidat lors de la prochaine présidentielle.
Édouard Philippe a malgré tout réaffirmé son soutien à Emmanuel Macron en conclusion des journées parlementaires de son parti Horizon à Fontainebleau. La première ministre Elisabeth Borne était d'ailleurs présente.
Et en dehors de son parti, Emmanuel Macron a aussi présenté cette semaine ses priorités pour les prochains mois, et notamment un projet de loi sur l'asile et l'immigration qui sera déposé dès le début de 2023.
Le président veut mieux répartir les étrangers qui arrivent sur notre territoire, en particulier dans les campagnes. Et à Calac, dans les Côtes d'Armor, la mairie n'a pas attendu Emmanuel Macron pour passer à l'action. Elle prévoit d'établir un centre pour accueillir des familles de réfugiés, sauf que ça ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, 2 manifestations, l'une pour et l'autre contre, sont prévues dans cette commune d'un peu plus de 2000 habitants. Reportage de Charles Guyard.
Je pense qu'il vaudrait mieux s'occuper de Calac avant de s'occuper des réfugiés.
Michel Rioux est très remonté. Depuis avril dernier, ce retraité remue ciel et terre pour faire retirer un projet de centre d'accueil pour migrants validé par la mairie.
Moi, tout ce que je demande, c'est que le maximum de gens se mobilisent.
Une demande entendue notamment par 400 signataires d'une pétition, mais aussi par Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, appelant à manifester ce samedi, où ce sera d'ailleurs à qui criera le plus fort, puisque d'autres organisations, de gauche et d'extrême gauche, vont aussi battre le pavé en faveur cette fois du projet que certains ici voient en revanche d'un très bon œil, comme Geneviève.
Je ne suis pas là, condamner quand même les gens qui vont venir là. Pourquoi ils ne viendraient pas? C'est des humains comme les autres quand même. Je ne suis pas contre du tout.
Conséquence de tout cela, la commune de 2200 habitants est coupée en 2, idéologiquement parlant sur le projet, et désormais géographiquement, hein, puisque chaque camp devra manifester sur une place bien précise, avec au milieu un important déploiement de forces de l'ordre pour éviter tout affrontement. Calac, Charles Guyard, Europe 1.
7h04, bienvenue sur Europe 1 avec le football sur le terrain judiciaire. Aminata Diallo a été mise en examen pour violences aggravées.
L'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain est suspectée d'avoir commandité l'agression de son ancienne coéquipière Kera Amraoui. Le parquet de Versailles a requis le placement d'Aminata Diallo en détention provisoire, Jean-François Pérez.
Oui, c'est un revirement total dans une affaire qui semblait stagner depuis des mois. Cette semaine, 4 hommes soupçonnés d'avoir participé à l'agression de Kera Amraoui ont été placés en garde à vue et auraient clairement désigné Aminata Diallo comme étant impliquée dans cette opération. On rappelle les faits, le 4 novembre dernier, Amraoui et Diallo reviennent d'un dîner avec le PSG. La voiture conduite par Diallo s'arrête, 2 hommes tirent alors Amraoui hors du véhicule et la frappent violemment à coups de barre de fer. Diallo n'est mystérieusement pas visé. Le premier mobile avancé, c'est la rivalité sportive entre 2 joueuses pourtant proches à l'époque. Mais Diallo, rapidement entendu par la police, est relâché sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. L'hypothèse suivante est celle de la vengeance après la révélation d'une possible relation adultère entre Amraoui, célibataire, et l'ancien international français Éric Abidal, marié. Là encore, rien de très convaincant. Amraoui se mure dans le silence. Diallo reçoit le soutien de nombreuses joueuses et se croit sorti d'affaire jusqu'à ses gardes à vue peut-être décisives. Aminata Diallo a passé sa première nuit en prison. La piste initiale des policiers était peut-être la bonne.
La précision de Jean-François Pérez.
Cette question à présent, faut-il ou non légaliser l'euthanasie en France ? Le débat a été relancé cette semaine.
Oui, d'abord avec l'avis du comité d'éthique qui s'est prononcé pour une aide active à mourir à certaines conditions strictes. Et puis avec la mort de Jean-Luc Godard, le réalisateur qui a eu recours au suicide assisté en Suisse. Certains Français partent d'ailleurs à l'étranger pour alléger leurs souffrances, souvent à cause de maladies incurables. C'est le cas de Marie-Hélène. Elle a accepté de témoigner au micro de Guillaume Dominguez pour Europe 1.
À 62 ans, Marie-Hélène apprend qu'elle souffre d'un cancer du sein particulièrement agressif. Il se métastase en quelques mois malgré la chimiothérapie. En juillet dernier, la maladie a atteint le cerveau et la moelle osseuse. Se pose alors pour elle la question de la fin de vie.
J'ai dit que je ne souhaitais pas aller jusqu'au bout de ce parcours de douleur et de déchéance.
En France, la loi Claeys-Leonetti prévoit pour tous les patients atteints de maladies incurables la possibilité d'une sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Mais pour Marie-Hélène, cette option est inenvisageable.
Pour que la personne meure, il faut cesser de la nourrir, il faut cesser de l'hydrater. Si on cesse de m'hydrater, si on cesse de me donner à manger, on va me tuer. Sauf qu'au lieu de me tuer en un quart d'heure de temps, on va me tuer en X jours. Je ne veux pas que ma famille me voie me dégrader dans cet état, c'est hors de question.
Depuis quelques semaines, Marie-Hélène a donc décidé de constituer un dossier pour pouvoir bénéficier de l'aide active à mourir en Belgique. Une solution coûteuse qui prend beaucoup de temps. Marie-Hélène craint surtout de ne plus avoir la force d'effectuer ce dernier voyage. Pour elle, il faut donc que la France avance absolument sur la question de la fin de vie.
Le témoignage de Marie-Hélène recueilli par Guillaume Dominguez dans une tribune publiée hier sur le site du journal Le Monde. Les évêques défendent pour leur part une aide active à vivre. Ils appellent à développer l'offre de soins palliatifs.
Et on parlera de ce sujet avec mon invité dans un instant, Jonathan Denis, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Ce sera après la météo. Merci Clotilde.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure ? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Et la météo de ce matin, Valérie, ce sont des petites pluies à l'est.
Effectivement, les averses qui concernent le Grand Est, mais en soirée, elles ne concerneront plus que les frontières. Alors, en notre début de journée, sur les Alpes du Nord, il neige aussi aux alentours de 1500 mètres. Cette limite puis neige qui s'abaisse donc jusqu'à ces 1500 mètres. Et les nuages présents du côté aussi du Piémont et de la chaîne des Pyrénées vont se disloquer au fil des heures. Sur le reste du pays, le ciel est bien dégagé. Les nuages sont un petit peu plus présent sur le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne, la Bourgogne, Rhône-Alpes, ce ciel qui est plus variable, le vent qui souffle toujours fort en Méditerranée, la tramontagne entre 60 et 70 km/h, le vent d'ouest 90 à 100 voire 110 sur les zones les plus exposées de la Corse, et puis le Mistral autour de 70 à 90 ce matin qui va faiblir cet après-midi. Les températures, elles sont encore en baisse, on l'a remarqué,
hein.
Voilà, pas plus de 5 à 8 dans l'intérieur des terres sur la moitié nord de la France, 8 à 12 sur le sud, 11 à 14 sur les côtes de la Manche, sur la façade atlantique, 15 à 17, tout comme sur la Méditerranée. Les maximales, elles vont se situer entre 16 et 20 sur le nord, entre 18 et 23 sur le sud, jusqu'à 27 sur les rivages de la Grande Bleue et 28 à 30 sur la façade ouest de la Corse.
Merci Valérie, on vous retrouve à 7h30. Dans un instant, sujet délicat, celui de la fin de vie. Je suis avec Jonathan Denis, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. À tout de suite.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Et merci de vous réveiller en notre compagnie sur Europe 1 avec cette question qu'on se pose ce matin. Faut-il ou non légaliser l'euthanasie en France ? Le débat a été relancé cette semaine avec notamment l'avis du comité d'éthique qui s'est prononcé pour une aide active à mourir à certaines conditions strictes. Je suis avec Jonathan Denis ce matin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et de vous être déplacé dans nos studios ce matin. Vous êtes président depuis un an, vous me le disiez, de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Emmanuel Macron qui relance le débat sur l'euthanasie avec la mise en place de ce qu'il a appelé une convention citoyenne. Est-ce que cette convention, c'est la bonne méthode, le bon modèle ?
Alors, je ne sais pas si c'est le bon modèle. Ça va permettre d'écouter tout le monde et ça, c'est important dans ce débat. Ensuite, c'est que de temps perdu parce que des conventions, des commissions, des rapports, on en a eu beaucoup depuis des dizaines d'années. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un an et demi, c'était en avril 2021, vous avez une majorité de députés qui, pour la première fois à l'Assemblée nationale, a voté l'article 1er de la proposition de loi d'Olivier Falorni légalisant l'aide active à mourir. Donc finalement, l'article 1er a été voté. Il y avait un temps, c'était une niche parlementaire, ils n'ont pas pu voter le reste. Mais il y a un an et demi, il y a eu cette avancée-là. Donc le texte est prêt, gagnons du temps. Remettons le texte sur la table, faisons discuter les députés ensemble, votons ce texte-là. Maintenant, la Convention citoyenne durera 6 mois, l'ADMD y prendra toute sa place, comme je pense l'ensemble des citoyens, comme l'ensemble des soignants. Il faut que toutes les parties prenantes puissent vraiment parler calmement, sereinement. J'espère juste que ce débat ne sera pas confisqué par les plus extrêmes.
Alors, vous sentez la société prête, à votre avis, quel a été le point de bascule? Parce que l'opinion a changé.
L'opinion, elle n'a pas changé. Ça fait 40 ans que l'opinion est favorable à une légalisation de l'aide active à mourir.
Pas dans un si grand nombre, proportion.
Alors, les premiers sondages qui étaient réalisés il y a 30 ans, c'était 70%. Aujourd'hui, effectivement, peu importe les sondages que vous pouvez faire, on est toujours entre 90 et 96%. Ça ne veut pas dire 9 Français sur 10 vont demander l'euthanasie, qu'on soit bien d'accord. Ces 9 Français sur 10 se disent qu'effectivement, il faut une liberté de choix dans la fin de vie. C'est-à-dire l'aide active à mourir, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, et puis un véritable accès universel aux soins palliatifs. C'est des soins palliatifs partout et pour tous. Donc le point de bascule, c'est plutôt sur le comité d'éthique. Parce que depuis 1983, le comité d'éthique avait toujours dit non. Et là, effectivement, il y a eu une grande avancée, et puis une double avancée. C'est Alain Claës, à la tête de ce comité d'éthique, Alain Claës quand même, qui a fait la loi de 2016, qui est une loi où vous ne retrouvez aucun autre pays qui a pu se dire, effectivement, on va s'en inspirer, effectivement, on va la mettre en place. Cette loi, elle est unique au monde parce que personne n'en veut. Eh bien, Alain Claës a eu le courage, effectivement, de dire, il faut peut-être une autre voie, il faut peut-être écouter tout le monde sur ce sujet.
Concrètement, qu'est-ce que ça va changer, cette nouvelle loi, si elle arrive?
Cette nouvelle loi, elle va permettre plusieurs choses. Elle va permettre d'abord de respecter les choix de chacun. Qu'on soit bien d'accord, moi je ne suis pas un militant de l'euthanasie, du suicide assisté, je suis un véritable militant du libre choix. Il faut écouter toutes les paroles. Elle va permettre de dire à des Français, vous n'avez plus à vous exiler en Belgique, vous n'avez plus à vous exiler en Suisse pour bénéficier d'une aide active à mourir, pour pouvoir mourir dans les définitions de votre propre dignité, de votre propre liberté. Parce qu'aujourd'hui, la loi actuelle, elle concerne des personnes qui sont à l'agonie. La loi Claeys-Sonetti, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est si vous décédez dans les quelques heures, quelques jours à venir. Donc on va altérer votre conscience, on va arrêter l'alimentation, l'hydratation, et puis la médecine se retire, la médecine va attendre. Eh bien demain, on pourra dire à des personnes qui n'ont pas un décès qui va être constaté à court terme, parce qu'il y a des souffrances qui sont réfractaires, des souffrances qui sont insupportables. Eh bien, à ces patients-là, on va leur dire, on va vous accompagner jusqu'au bout. On va enfin vous donner ce dernier soin que vous demandez depuis des années.
Est-ce que vous comprenez les soignants réticents? Ce n'est pas anodin pour un soignant de donner la mort.
Mais je comprends tout le monde. Dans ce débat, personne ne peut avoir une vérité ou une certitude. Et c'est justement parce que nous n'avons pas la vérité que nous demandons l'ouverture du champ des possibles. Les soignants doivent être respectés. Après, il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Quand j'entends des soins palliatifs qui nous disent « Moi, dans mes services, je n'ai jamais eu une demande d'aide active à mourir. » Ou « Si on a des demandes d'aide active à mourir, apporter ces soins palliatifs fait qu'elles vont se taire derrière. » Ce n'est pas vrai. Il y a vraiment des souffrances réfractaires. Mais les soignants sont à écouter. Et puis dans cette loi, il faudra mettre une clause de conscience. On ne peut pas demander la liberté de choix et en même temps dire aux médecins « Vous êtes obligés de pratiquer cet acte. » Donc la liberté de conscience des médecins, elle devrait être dans la loi.
Est-ce qu'on doit aussi aller vers une augmentation des budgets aussi pour les soins palliatifs? C'est important tout de même aujourd'hui.
Mais les deux choses ne peuvent pas être dissociées. C'est-à-dire que je crois profondément que c'est compatible. Et si on part d'un postulat en se disant « ce n'est pas compatible », on n'y arrive pas. C'est compatible ailleurs, chez nos voisins européens, ça doit l'être également chez nous. Mais effectivement, si demain on ne fait que l'accès universel aux soins palliatifs, on a raté. Si demain on ne fait que la légalisation de l'aide active à mourir, on a raté. Donc oui, il faut mettre beaucoup d'argent. Et il faut juste rappeler une chose simple. Avant l'Assemblée nationale, le Sénat a effectivement parlé de légaliser l'aide active à mourir. La réponse du gouvernement, ça a été un cinquième plan de soins palliatifs. Ça faisait 2,50 euros par habitant. Dans le même temps, l'Autriche légalisait le suicide assisté, faisait voter un plan de soins palliatifs de 12 euros par habitant, 6 fois plus. Donc, inspirons-nous de ce qui fonctionne ailleurs et arrêtons de croire à cette exception française qui fait que depuis 20 ans, on n'arrive pas sur ce sujet à évoluer.
Merci beaucoup d'être venu dans nos Merci studios ce matin. Jonathan Denis, président de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Merci, c'est beaucoup plus clair à présent pour nous. Il est 7h16, le point sur l'actualité, Clotilde Dumay.
Vous pouvez ressortir le slip de bain et les lunettes de plongée. Les 30 piscines fermées en début de mois par Vert Marine rouvriront toutes d'ici la fin de la semaine prochaine. L'exploitant avait décidé de les fermer à cause de l'explosion de la facture énergétique, mais Vert Marine explique que des solutions provisoires ont pu être trouvées avec les collectivités pour mieux appréhender les surcoûts. Le ministre de l'Intérieur demande au président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, de lui faire des propositions pour muscler l'économie de Lille. Gérald Darmanin a participé à une première réunion de travail avec des élus corses sur l'avenir de la collectivité. Le ministre a notamment évoqué une possible adaptation des dispositifs fiscaux existants. C'est l'un des emblèmes de Los Angeles, les lettres Hollywood où on se refaire une beauté. Après un nettoyage au jet sous pression, elles seront repeintes. Le chantier doit débuter lundi, a duré 8 semaines pour que l'écriteau monumental soit prêt à célébrer ses 100 ans en 2023. Et puis c'est déjà fini pour les Bleus en Coupe Davis. Les tennismen français n'ont plus de chance d'être qualifiés en quart de finale après la victoire de l'Allemagne contre la Belgique. Ils sont éliminés dès la phase de groupe.
Merci Clotilde. Il est 7h18. Bienvenue sur Europe 1. Dans un instant, Mathieu Alterman nous dira que oui, certains films sont des navets et qu'il faut plutôt regarder les remakes. A tout de suite.
Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Mathieu Alterman, on parle cinéma ce matin sur Europe 1 avec les remakes qui sont parfois meilleurs que les films originaux.
Lénaïque, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque l'on prononce le mot de remake, nous viennent en mémoire des souvenirs cauchemardesques de films comme La nouvelle version de La planète des singes ou bien L'emmerdeur avec Patrick Timsit et Richard Berry à la place de Jacques Brel et Lino Ventura.
Oui, des expériences qui nous ont fait un peu mal, c'est vrai, mais vous venez nous parler de contre-exemples, il y en a quand même.
Absolument, dans le top des remakes meilleurs que les originaux, ça existe, voici le premier, Ocean Eleven. This town is a lonely town. C'était un très mauvais film de 1960 mettant en scène la bande du Rat Pack, un Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. qui n'avait jamais dû lire le scénario, trop occupé au bar. Eh bien, le remake sorti en 2001 avec Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon et Julia Roberts est absolument excellent et rapporta 450 millions de dollars au box-office. Bonne opération. Autre exemple, Casino Royale. C'était un faux James Bond parodique de 1967 avec Peter Sellers et David Niven. Une catastrophe qui coûta une fortune, n'attira pas les spectateurs, mais d'où surnageait cette très jolie chanson The Look of Love. The look of love. Et bien en 2006, la nouvelle version réécrite et avec Daniel Craig est aujourd'hui considérée par beaucoup comme le meilleur film de la franchise.
Et est-ce qu'on a des exemples également dans le cinéma français?
Oui, trois cas fort différents. Les Choristes, le plus gros succès de 2004. Eh bien, c'était un remake du bien oublié La Cage aux Rossignols, donc bien joué la nouvelle version, et personne n'aurait pu prévoir que le très moyen film de Claude Zidi, La Totale en 1991, certes avec un beau casting, Thierry Lhermitte, Michel Boujna et Tim Mitchell et Miu Miu, allait connaître un triomphe mondial avec son remake américain True Lies, qui réunissait Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis, et qui mêla, attendez, à 380 millions de dollars de recettes. Alors, autre exemple inverse, rendons hommage au réalisateur Just Jacquin, décédé il y a 10 jours, qui, outre l'immense succès d'Emmanuel à travers le monde, fut en 1976 à la tête du film Madame Claude, dont le remake calamiteux de 2021 n'a pas fait oublier la grâce de la chanson originale joliment susurrée par Jane Birkin. Yesterday, yesterday, like any day. Enfin, parfois, seule la musique s'en mêle, comme cette sublime reprise de la chanson d'Hélène du film Les Choses de la Vie par le trompettiste Stéphane Belmondo, que nous retrouverons d'ailleurs en concert le 23 septembre à Triel-sur-Seine. Écoutez, c'est magique. À demain.
Magnifique. À demain, Mathieu.
À demain. Europe 1.
7h23, on reste dans le domaine musical avec la note secrète de Fabrice Lafitte. Bonjour Fabrice.
Bonjour Lénaïque,
bonjour à tous. On découvre l'histoire d'une chanson, hein, comme chaque week-end. Nous sommes le 2 juillet 56. Elvis Presley est au studio RCA de New York pour enregistrer Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog.
Pourtant, de retour de déjeuner, le King est anxieux et assez tendu. Il faut dire qu'il lui manque encore une chanson pour la phase B de ce futur 45 tours. Alors, Elvis cherche rapidement dans le catalogue de la société d'édition Chalimar Music qu'on lui tend et s'arrête sur un morceau dont il adore le nom. Don't be cruel. Ne sois pas cruel, en français dans le texte. Et pour avoir une idée plus précise de ce morceau, Elvis Presley écoute la bande démo sur une cassette interprétée par son auteur, un certain Otis Blackwell. Et voici ce qu'entend Elvis. Otis Blackwell, un Afro-Américain originaire de Brooklyn, a composé ce titre fin décembre 1955. Vivant quasiment dans la rue à New York, il vend à Chalimar Music sa chanson pour une bouchée de pain ou presque, seulement 25 dollars. Bon, pour être honnête, Elvis Presley n'aime pas trop certains passages. Mais il faut faire vite, car il ne lui reste plus que quelques heures d'enregistrement. Alors, il s'assied dans un coin du studio, échange rapidement quelques paroles. Les musiciens ont quant à eux à peine 20 minutes pour s'imprégner des notes et de la mélodie.
Et Fabrice, une fois derrière le micro, Elvis enregistre 28 prises avant d'être complètement satisfait du résultat.
Le 18 août 1956, Don't Be Cruel devient numéro 1 des ventes aux États-Unis pendant 11 semaines et fait plus fort que la phase B de ce 45 tours, Hound Dog, qui se classe seulement numéro 2 des classements musicaux américains de l'époque. C'est d'ailleurs le single le plus vendu d'Elvis Presley, avec plus de 4 millions d'exemplaires écoulés à la fin de l'année 1956. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to a heart that's true.
Elvis, Don't Be Cruel, 1956. On écoute quoi demain, Fabrice ?
Quentin Jackson emprunte la chanson d'un autre Jackson pour en faire un succès planétaire.
Merci Fabrice Laffitte, vous restez avec nous dans un instant. Le journal de 7h30 avec Clément Barga.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Bienvenue sur Europe 1. Merci de vous réveiller en notre compagnie. Il est 7h30, l'heure de retrouver Clément Barguin pour le journal. Bonjour Clément.
Bonjour Léna Aig, bonjour à tous. Un stylo qui fuit, un encrier qui le gêne. Moins d'une semaine après son accession au trône, le roi Charles III exprime déjà quelques contrariétés.
La forêt de l'horreur à Izium, ville du nord-est de l'Ukraine, près de 450 tombes sommaires viennent d'être découvertes, ainsi qu'une fosse commune.
Et puis à l'occasion des journées du patrimoine, direction le site Richelieu, berceau historique de la Bibliothèque nationale de France qui rouvre ses portes après 12 ans de travaux.
Elle fait partie également du patrimoine, la reine Elisabeth II à la une de Paris Match. On en reparle d'ici quelques instants. Dans Paris, s'il est sorti, on évoquera le cinéma, la BD, la musique comme chaque semaine. Et puis juste avant, le journal de 8h, la chronique immobilière de Christophe Bordet. L'agent immobilier est-il vraiment indispensable pour acheter ou vendre votre bien ? Il vous donnera la réponse. Mais avant cela, une tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien ce matin, entre 4 à Évreux et 17 à Perpignan, des valeurs par endroits dignes d'octobre et quelques gelées blanches qui apparaissent dans nos campagnes. Le beau temps qui s'installe tout de même sur toute la façade ouest et en région parisienne.
Et vous nous dites tout en détail juste après ce journal. Tout au long de son règne, Elisabeth II avait une devise, never explain, never complain, en français, ne jamais se justifier, ne jamais se plaindre.
Et les choses semblent un peu moins évidentes avec le roi Charles III. On l'a vu s'agacer pour des choses assez futiles, un encrier qui le gêne, un stylo qui fuit. Le Guardian révèle également que Charles III envisagerait de licencier une partie du personnel de son ancien staff princier. De plus en plus de Britanniques commencent à se demander si le costume de roi ne sera pas un peu grand pour Charles III. À Londres, le reportage de notre envoyé spécial Stéphane Place.
Ici, sur le marché de Borough, derrière son étal, Gary vante la qualité de ses fruits, mais pas celle de Charles III. Certainement pas le meilleur chez les Windsor, dit-il, pour succéder à la reine.
Je n'aime pas Charles. Je préfère William. Je ne suis pas d'accord avec son mariage. C'est pas le bon roi, à mon avis.
Un peu plus loin, Conrad, qui vend ses huîtres sur ce marché, attend de Charles qu'il prouve ses capacités.
On va lui donner sa chance. Il va devoir prouver qu'il mérite le respect du peuple, parce qu'il a tout foutu en l'air avec Diana.
Avec notamment l'obligation constitutionnelle pour le nouveau roi de ne pas se mêler de politique. Charles, qui s'était permis, au début des années 2000, d'écrire au ministre du gouvernement Blair... David, londonien d'une cinquantaine d'années, n'a pas oublié.
S'il ne s'implique pas en politique, ça ira. Maintenant qu'il est roi, il va se tenir en retrait, c'est très bien.
Lisbeth, qui fait la queue pour aller s'incliner devant le cercueil d'Elisabeth II, est persuadée, elle, que Charles III sera à la hauteur de la tâche.
Il a 73 ans. Il a fait des choses incroyables pour ce pays. Il a eu sa mère comme exemple pendant des années. Je pense qu'il est très gentil et il sera un roi formidable.
Il n'empêche, beaucoup de Britanniques croisés ici glissent que Charles n'a pas le charisme de sa mère et pas sa popularité non plus. Londres, Stéphane Place, Europe.
Le roi Charles III qui est officiellement invité en France par Emmanuel Macron. Le chef de l'État et sa femme Brigitte dîneront dimanche soir avec le nouveau souverain avant d'assister aux funérailles d'Elisabeth II qui auront lieu lundi.
Emmanuel Macron qui a également réagi après la découverte de centaines de corps enterrés sommairement à Izium en Ukraine.
Dans la ville du Nord-Est libérée après 6 mois d'occupation par l'armée russe, 443 tombes viennent d'être découvertes ainsi qu'une fosse commune. 99% des corps inhumés hier présentent des signes de mort violente d'après le gouverneur régional Louise Douillet.
C'est en dessous d'innombrables croix en bois plantées dans un sol sablonneux que des centaines de corps ont été exhumés hier. Selon le gouverneur régional, plusieurs avaient les mains liées dans le dos. Une personne a même été enterrée avec une corde autour du cou, a-t-il déclaré sur Telegram. Oleg Sinegubov rapporte enfin que les 200 agents et experts mobilisés sur le terrain ont découvert des corps d'enfants au sein de cette fosse commune. Ce qui l'amène à qualifier ces actes d'actes de torture, au même titre que le président Zelensky.
Aujourd'hui, le monde doit voir ce que l'armée russe a laissé derrière elle. Une autre fosse commune de personnes massacrées. Nous ne savons pas encore exactement combien il y a de corps. L'exhumation vient à peine de commencer. Vous avez vu Boutcha, vous avez vu Mariupol, maintenant Izium. Combien de temps cela va-t-il encore durer ?
De son côté, le Haut Commissariat aux droits de l'homme pour l'ONU a indiqué vouloir envoyer une équipe à Izium pour déterminer les circonstances de la mort de ces personnes.
Les précisions de Louise Douillet.
La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie à l'origine des risques de pénurie de gaz et d'électricité en Europe.
D'où cet appel à la sobriété énergétique. Le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE vient de mettre en place la plateforme numérique EcoWatt. Elle est accessible aux entreprises et aux particuliers. Alors concrètement, Barthélémy Philippe, à quoi ça sert et comment ça marche ?
En fait, c'est simple. Vous allez sur le site monecowatt.fr pour connaître le niveau d'électricité disponible dans le pays. Ça se présente comme la météo de l'électricité. Vous voyez apparaître une carte avec des prévisions à 4 jours et un code couleur. En vert, c'est que tout va bien. En rouge, attention, le réseau est sous tension et peut saturer à tout moment. Les précisions de Jean-Paul Roubin, directeur exécutif du réseau électrique.
Ça veut dire que la production française d'électricité qu'on prévoit pour le lendemain ne sera pas suffisante pour couvrir la consommation. Et ce déséquilibre, il faut absolument le réduire. Et pour ça, le système EcoWatt finalement invite et incite l'ensemble des Français à réduire leur consommation d'électricité. Et cette réduction permettra d'éviter qu'on soit contraint à l'ultime mesure qui serait d'organiser des coupures d'électricité sur le territoire.
Si vous êtes inscrit sur monecowatt.fr, vous devriez recevoir des alertes par mail ou SMS cet hiver. Lors d'un pic de consommation, vous pouvez par exemple éteindre votre four ou décaler votre machine à laver de quelques heures. Ce sont des gestes simples, mais ils vous permettent de réduire la facture. C'est important parce que le prix de l'électricité devrait augmenter de 15% début 2023.
Les explications de Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.
Hein. Les journées du patrimoine avec le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France qui rouvre enfin au public.
Ouais, après 12 ans de travaux, c'est l'occasion de redécouvrir cette bibliothèque exceptionnelle. Visite guidée avec Marie Jiquel.
Une malle laissée au grenier pendant des dizaines d'années où la caverne d'Ali Baba, les collections hétéroclites de la BNF regorgent de trésors, comme le pendentif en émeraude de Catherine de Médicis, le manuscrit de Notre-Dame de Paris, la Game Boy Color et même des enregistrements de la voix de l'écrivain Colette.
Depuis 10 ans que je m'accorde de nouveau
la douce.
Des centaines d'objets sont présentés sur les 40 millions de documents conservés par la BNF. Louis Joberti fait partie de l'équipe qui a dirigé les travaux de rénovation.
La bibliothèque n'a pas seulement des livres imprimés, elle a aussi des cartes, des estampes, de la photographie, des costumes de théâtre.
Dernier enchantement du site, la salle ovale, une salle de bibliothèque ouverte à tous et ouverte sur le ciel avec sa grande verrière. Un espace qui donne envie de devenir un rat de bibliothèque avec notamment la collection de 9000 bandes dessinées et mangas.
Marie Jiquel du service culture d'Europe 1.
Merci Clément, à tout à l'heure. Valérie, à quoi ressemble le ciel si on ouvre ses volets là en ce moment ?
Eh bien par exemple de la Bretagne et des Pays de la Loire à la Normandie et du centre Val-de-Loire au bassin parisien, avec une pensée pour notre fidèle auditrice Flavienne qui part d'ailleurs en Bretagne.
Ah oui, chez moi à Bénodet. Ah,
voilà, exactement. Eh bien vous vous réveillez sous le soleil qui va durer jusqu'à ce soir. Mais il fait très frais hein, ce matin avec 4 à 9 degrés. Les températures remontent cet après-midi au soleil. Des Hauts-de-France au Grand Est, c'est plus variable. Les éclaircies alternent avec des passages nuageux parfois nombreux. Près des frontières du Nord, on a quelques faibles averses qui peuvent encore se produire et les températures qui sont dignes d'un mois d'octobre. De la Bourgogne-Franche-Comté à l'Auvergne, à Rhône-Alpes, il fait beau dès l'ouverture de vos volets. Mais là aussi, le petit vent du Nord est frisqué et les températures continuent de baisser et sont comprises ce matin entre 5 et 10 et cet après-midi entre 16 et 20. Et enfin, pour être tout à fait complète, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, et là c'est chez moi, du côté de Bordeaux, et de la région PACA à la Corse, le temps est très ensoleillé, la tramontane souffle à 70 km/h en rafale et le mistral souffle fort de la vallée du Rhône au littoral varois, ce vent qui faiblit cet après-midi.
Merci beaucoup Valérie, passez un excellent samedi matin. Notre compagnie, il est 7h38. La photo de Paris Match comme tous les samedis sur Europe 1. Bonjour Patrick Mahé.
Bonjour.
Alors directeur général, on le rappelle, de la rédaction de Paris Match. J'ai l'impression d'avoir un objet déjà culte d'anthologie entre les mains, ce Paris Match dédié à la reine Elisabeth et à sa grande histoire avec la France.
Absolument. D'abord, cette photo est une photo de David Bailey, une photo formidable de David Bailey. Et ce numéro a été tiré à 1 million d'exemplaires. Ce qui est un des tirages qu'on ne voyait plus depuis longtemps, et bien
oui,
entendu,
ça marche bien.
L'évolution de la presse, mais c'est un magnifique tirage. Et donc cette histoire d'amour, en fait, on peut dire que la... Oui, c'est une histoire d'amour. Une longue histoire, parce qu'on peut dire même que la reine d'Angleterre a mis la France à ses pieds.
Oui.
Mais elle a mis depuis son couronnement, depuis 1953. Mm-hmm. Par exemple, je peux vous dire qu'en 1952, Paris Match vend 600 000 exemplaires. En 1953... avec la mort du roi, on passe, et les obsèques, on passe déjà à 1,2 million. Et la reine arrive, on fait déjà un numéro hors série,
oui,
rarissime, qui se retrouve en ce moment sur le site internet de Paris Match, sur le web.
Très bien.
Et en 57, alors c'est l'avènement considérable. En 57, c'est le premier voyage en France. Et là, alors là, vraiment, ça bat tous les records. Elle bat tous les records de vente. On va placer trois numéros de match à plus de 2 millions d'exemplaires. Et il y a même Françoise Sagan qui va en bénéficier. Parce que le troisième numéro qui arrive juste après la visite, eh bien, elle fait un score considérable parce qu'en fait, Roger Théron, à l'époque, le patron, avait dit « on ne va pas mettre encore la reine une troisième semaine ». Ben, elle fait plus de 2 millions, Sagan, grâce à ça. Elle est créditée d'un score extraordinaire. Bon, la reine a rencontré tous les présidents qu'on connaît depuis René Coty.
Bien sûr.
Bien sûr, De Gaulle à Londres, Valéry Giscard d'Estaing, Pompidou. Et surtout, on remarque que quand elle vient en France en 57, elle va partout. Elle va chez Renault, elle va chez Prouveau, elle va un peu partout. Et tout ce voyage officiel, les photographes de match la suivent. Jackie Garofalo, entre autres, Walter Caron, des grands noms de la photo. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'elle a mis vraiment à jamais la France à ses pieds.
Et vous, Patrick Mahé, on vous retrouve évidemment dans Paris Match, directeur général de la rédaction. Merci beaucoup. Bon week-end.
Merci à vous. Bon week-end.
Et vous restez avec nous tous les samedis matins à cette heure-ci. On vous aide à faire le plein d'idées de sorties, cinéma, musique, bande dessinée. Stéphanie Loire, Laurie Choleva et Sébastien Bordenave sont avec nous. À tout de suite.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1.
Et par ici, les sorties avec Laurie Choleva, Stéphanie Loire, Sébastien Bordenaf. Bonjour.
Bonjour.
Waouh. On rigole, mais on va quand même parler d'une triste nouvelle, Laurie, puisqu'on a appris cette semaine la disparition quand même d'un cultissime réalisateur de cinéma, Jean-Luc Godard, alors que son tout dernier film est au cinéma, justement.
Exactement, c'est vrai, c'est un géant du cinéma mondial qui s'est éteint à l'âge de 91 ans. Les hommages se sont succédés toute la semaine pour saluer la mémoire de Jean-Luc Godard, figure emblématique de la nouvelle vague. On lui doit des chefs-d'œuvre incontournables de l'histoire du cinéma, d'À bout de souffle, Au mépris, ou encore voilà, la sublime musique de Georges Delerue, le célèbre thème de Camille, et puis également le film Pierrot le Fou, et bien d'autres. Et effectivement, ce qui est complètement fou, c'est que cette semaine est sorti au cinéma son ultime film. Alors, il ne l'a pas réalisé, il joue dedans. C'est un documentaire qui s'appelle À vendredi Robinson, d'une réalisatrice qui s'appelle Mitra Farahani, et qui filme en fait une correspondance entre Jean-Luc Godard et l'écrivain réalisateur iranien Ebrahim Golestan. Vous ne le connaissez pas, moi non plus, mais il était une figure de la nouvelle vague iranienne. Et donc elle filme cette correspondance, deux intellectuels qui dialoguent au crépuscule de leur vie, et c'est assez poignant.
Alors dans l'actualité du cinéma également, Laurie, outre le Godard, enfin, le film dans lequel joue Godard, un conseil pour ce week-end ?
Un énorme coup de cœur, vous voulez dire. Le nouveau film d'Emmanuel Mouret, celui qui aime tant badiner avec l'amour. Il manie les mots comme personne. Ça s'appelle Chronique d'une liaison passagère. Il retrouve l'acteur des choses qu'on dit, les choses qu'on fait, qui était son précédent film. Vincent Macaigne, aux côtés de Sandrine Kiberlain. Alors Sandrine, elle joue Charlotte, une mère célibataire. Simon, Vincent Macaigne, lui, est un homme marié. Ils vont se rencontrer, coucher ensemble, se promettent surtout pas s'attacher. Et évidemment,
ça rate.
Voilà. Parce qu'une histoire de fesses se transforme en histoire de cœur, bon bah c'est pas ça.
On va boire un verre ou deux, mais je ressens une envie irrésistible de faire l'amour avec toi. C'est simple, on ressent une attirance l'un pour l'autre, on se plaît, on fait pas de plan sur la comète.
Tu veux prendre une douche avec moi ?
Non.
J'ai une question, quelle est la vie sentimentale de ce réalisateur Emmanuel Mouret qui ne cesse de parler d'infidélité, de cœur brisé,
ça m'arrive.
De tromperie, de manipulation. Là, il y a moins de manipulation que d'habitude, remarque. Bon, pour moi, c'est son meilleur film, vraiment, et ce duo est irrésistible, ils sont de tous les plans, Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlain.
Qui me donne presque envie d'être infidèle, hein, je dis ça, j'y arrive. La BD, on va être plus sage. Quentin Zution. Qui est-il ?
Quentin Zution, un grand type à lunettes, tatoué au regard enfantin, capable de vous dire les pires horreurs avec un sourire angélique. C'est l'effet que m'a fait Quentin Zution quand je l'ai rencontré. Il organisait dernièrement une petite sauterie pour le lancement de sa toute dernière BD publiée chez Le Lombard et qui s'appelle « Toutes les princesses meurent à minuit », ce qui est faux, sinon vous ne seriez pas là,
Lénaïque. Mais sinon, on serait pas là.
Ben voilà, exactement. Évidemment. Toujours bien de flatter
nous
la patronne.
Nous, en revanche, on compte pas.
Oui, voilà, je flatte que la patronne. Okay. « Toutes les princesses meurent à minuit », voici l'histoire. Nous sommes le 31 août 1997, c'est le jour où...
C'est
la mort de
Lady Di.
Mort
tragique. Lulu, qui a 8 ans, entend ça à la radio. Et les princesses, lui, il adore ça. Il aimerait d'ailleurs être lui-même une princesse. Et quand il joue avec son copain Yo-Yo, qui adore le foot, eh ben, il n'a qu'une envie, c'est mourir pour que son copain Yo-Yo l'embrasse sur la bouche pour qu'il se réveille. Vous l'avez compris, il aime bien les garçons, même si tout ça est encore un petit peu flou pour lui. Une BD autobiographique de Quentin Zution d'une subtilité ahurissante. On y croise aussi sa sœur, qui a un petit copain très relou, et ses parents qui sont en train de se séparer. Bref, Quentin dessine avec Maestria à un moment charnière de sa vie. Ça s'appelle « Toutes les princesses meurent après minuit » chez Le Lombard.
Et il a dessiné autre chose également,
il n'y a pas
que ça dans son
œuvre. Exactement,
oeuvre.
Une autre BD qui s'appelle « Touché », publiée chez Paillographique il y a 3 ans, et on la trouve encore. Elle raconte le chemin de vie de 3 femmes victimes de violences sexuelles qui se sont inscrites dans un cours d'escrime thérapeutique pour se reconstruire. Et si j'en parle, c'est parce que ce jeudi, qui vient à 21h10, TF1 diffuse l'adaptation de cette BD, dont on ne sort pas indemne à la lecture. C'est la première réalisation d'Alexandra Lamy dans laquelle joue sa fille, Chloé Jornet, avec aussi Claudia Tagbo et Mélanie Doutet. Et en plus, c'est un partenariat avec Europe 1, donc ne boudons pas notre plaisir.
Et le dessin est vraiment très très joli, très fin. Hein.
Exactement.
Merci beaucoup. Ah oui, bah tiens, allez, la princesse. Princesse Stéphanie, tiens, on va passer à la princesse Stéphanie.
Cadeau.
Avec là aussi les nouveautés de la semaine. Moby, de retour.
Mobido.
Mais pas avec n'importe qui.
Pas avec n'importe qui, il s'associe. Il avait déjà collaboré avec Mylène Farmer il y a quelques années. Et là, il est de retour, Moby, le New-Yorkais, qui a migré en 20 ans de la techno house à la pop en faisant un petit virage par le punk. Il a écoulé, je le rappelle, avant de vous faire découvrir ce titre et ce duo, plus de 20 millions de disques dans sa carrière, dont 12 millions pour le seul Play, publié en 99. Rappelez-vous de ce tube Natural Blues.
On dirait un indien qui a été bourré quand il chante.
Ça avait d'ailleurs été beaucoup utilisé dans la publicité. Donc Moby n'a jamais hésité à utiliser son statut médiatique pour faire passer des messages politiques. C'est un artiste engagé. Il s'y applique une fois de plus avec ce nouveau projet en duo avec Nicolas Sirkis du groupe Indochine. Avant de découvrir le nouveau single, ça vous dit on se fait une petite bouchée d'Indochine ?
Ah bah oui.
Et là, tout le monde danse. Mais avec la tête. Avec la tête.
Là, c'est pour bosser les cervicales. Je pense à vous, c'est l'exercice du samedi matin. Et le titre de Moby et Nicolas Sirkis s'appelle « This is not our world ». Il est écrit et composé par Moby. Il nous alerte sur l'état du monde dans lequel on vit.
Ça fonctionne bien.
Ouais, et on sent quand même l'ADN Indochine, on l'entend. Mm-hmm. L'origine du pseudo Moby, ça peut nous permettre de briller en dîner. Vous savez, quand il y a un blanc dans un dîner, on peut placer une petite info. Eh bien, ça vient de son arrière-arrière-grand-oncle qui était l'auteur de Moby Dick,
et oui.
Herman Melville.
L'anecdote voilà. Chic.
Paf.
Ouais, c'est chic.
Allez hop.
Autre nouveauté ?
Oui, du côté de la pop française cette fois, le bassiste, compositeur, interprète, arrangeur, Calogero, Calo pour les intimes, qui est de retour.
Vous, hein, parce que nous, perso, on connaît
je
pas.
Je ne suis pas du tout
Calo
un
est un génie.
Il est de retour avec la réédition de son album Centre-ville, un album qu'il avait cuisiné avec beaucoup d'amour en plein confinement. Parmi les 12 titres bonus de cette réédition, un titre totalement inédit, fabriqué avec son ami Zazie, qui a écrit le texte. On écoute, c'est le fil de fer.
Bah, c'est toujours bien, Calo. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'est une valeur sûre, Calo.
Franchement, ça marche à tous les coups. Hein. Ouais. Ça nous réveille bien, là, ce matin. On est pas mal.
Bah, c'est parfait. Moi, je pense que ça se consomme avec un petit déj, comme ça, limite sur un plateau repas au lit, en écoutant un repas.
C'est bien. Stéphanie nous amène le petit déj ce week-end. On en profite. Et on rappelle quand même que Calogero est en concert au Théâtre Antique d'Orange ce soir et qui sera à Fontainebleau Festival, au Fontainebleau Festival demain, le 18 septembre. Merci à tous les trois.
Bon week-end.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Et à 7h54 sur Europe 1, on vous remercie d'être avec nous pour vous réveiller. On fait le point sur toute l'actualité avec vous, Clément Barguin.
Des routes inondées, des arbres renversés. La Guadeloupe est placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages en raison du passage de la tempête Fiona. Les habitants sont invités à rester chez eux. Le trafic aérien est suspendu. Les vents atteignent jusqu'à 120 km/h selon Météo France. À l'occasion des journées du patrimoine, Emmanuel Macron annonce que le loto du patrimoine durera encore au moins 5 ans. Depuis son lancement en 2018, 200 millions d'euros ont été récoltés pour la sauvegarde de 745 sites en péril. C'est le moment de ressortir maillots et bonnets de bain. Les 30 piscines fermées depuis début septembre seront toutes rouvertes avant la fin de la semaine. C'est ce qu'annonce Vermarine. L'exploitant a trouvé des accords avec les collectivités locales. Et puis l'équipe de France de basket se qualifie pour la finale de l'Euro en écrasant la Pologne, 95 à 54. Elle affrontera sa grande rivale, l'Espagne, en finale. Ce sera dimanche à 20h30.
Merci Clément et bonne matinée sur Europe 1.
Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
Bienvenue chez vous tous les week-ends, juste avant le journal de 8h, avec cette question aujourd'hui, vendre ou acheter, l'agent immobilier est-il indispensable ? On en parle avec vous. Bonjour Christophe Bordet.
Bonjour amis propriétaires et locataires.
Alors est-ce qu'il faut vraiment faire appel à un agent si on veut acheter ou vendre sa maison ou son appart ?
Écoutez, la vérité c'est que chacun fait ce qui lui plaît. J'ai envie de vous dire, bien sûr, vous pouvez vous passer d'un agent immobilier, mais il faut quand même faire appel à un notaire pour rédiger les actes juridiques de la transaction, ça se fait pas tout seul. Mmh. Ensuite, il y a tout de même une vingtaine de documents, au total, juridiques, techniques, financiers à fournir. Honnêtement, c'est un mois de travail à temps complet. Oui, un mois de travail à temps complet, c'est un véritable casse-tête et c'est là que l'agent immobilier est utile. Il est là pour vous faciliter la vie, pour être normalement de bons conseils. Côté prix, notamment, c'est important. Cédric Laveau, agent immobilier en Moselle.
C'est fondamental d'être accompagné de quelqu'un qui connaît le marché parce qu'aujourd'hui, d'une rue à l'autre ou d'un côté de rue à l'autre ou d'un immeuble à l'autre, les valeurs peuvent être fondamentalement différentes. Il faut connaître les particularités des copropriétés concernant les charges, les travaux à prévoir, l'approche fiscale et la connaissance fiscale au niveau du client acheteur mais aussi du client vendeur.
Bref, l'agent effectue pour vous beaucoup de démarches et vous aide aussi à éviter les pièges.
Je vous donne un exemple précis, Christophe. J'ai un client qui m'appelle la semaine dernière et qui a voulu vendre sa maison de particulier à particulier. Il a été très embarrassé parce que pendant la période du compromis, tout avait fissuré. Eh bien, l'agent immobilier du secteur savait que sur cette commune, il allait être déclaré un état de catastrophe naturelle suite au gonflement des argiles et que toutes les maisons d'un quartier étaient concernées par cette gêne qui vous l'imaginez, est plus qu'embarrassante pour l'acquéreur. Bien, l'agent immobilier aurait anticipé le problème.
Et oui, anticipé le problème, car évidemment, une maison fissurée, il y en a de plus en plus en France aujourd'hui, eh bien, c'est invendable, voire avec une valeur évidemment beaucoup moins importante. Bref, l'agent immobilier est là pour vous aider, y compris sur le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, absolument.
Et Christophe, on va pas se mentir, quand on achète ou quand on vend, chaque euro compte. Si on se passe d'un agent, on fait quand même quelques économies.
Ah, factuellement, il n'y a pas de doute, la commission d'un agent s'élève aux alentours de 5%, jusqu'à 7% même. Il faut bien qu'il se rémunère d'une manière ou d'une autre. Pour un bien de 300 000 euros, c'est 15 000 euros dans sa poche, pas dans la vôtre. En même temps, s'il a bien fait son boulot, bah, ce n'est pas un problème et tout le monde est content à la fin. Voilà.
Comment on peut être sûr que le bien va être vendu rapidement si on passe par un agent ?
Écoutez, c'est la meilleure façon parce qu'en moyenne, il faut 3 mois pour vendre un bien. Et aujourd'hui, les professionnels du secteur se sont regroupés dans un fichier qui s'appelle le fichier Amépi. 40 000 annonces. Il y a de quoi trouver votre bonheur quand même.
Eh bien, on espère. Bah merci oui. Christophe Bordet. À demain.
Avec plaisir.
Et vous restez avec nous. Le journal de 8h arrive.